Suite du journal et des lettres de John Bunyit Cock, le 8e jour du 11e mois, 1682. J'ai parcouru ces contrées jusqu'à Castlaven, et j'y ai tenu une réunion hier il y a 8 jours, puis je suis revenu à Cock pour la réunion des 6 semaines, où nous avons eu une saison bénie, la puissance du Seigneur était richement parmi nous. Et après-demain, je dois aller vers Youghal, puis dans le comté de Tipperary, puis à la réunion de Casteldermot, et ensuite, pour autant que je sache, vers Dublin. Je suis réconforté dans mon service parmi les amis, qui sont généralement heureux de ma venue, et de ce qu'ils attendent au sujet de mon mariage. Mais mon cœur est pleinement satisfait, en ce que je sens la bonté du Seigneur envers nous, et c'est dans sa crainte que je prends plaisir à l'attendre en cela, comme en d'autres choses, et je souhaite que nous puissions être un bon exemple. C'est pourquoi je trouve que notre voie est de ne pas nous hâter, que le Seigneur nous donne la sagesse de marcher de telle sorte qu'il soit glorifié, et que les amis soient réconfortés en nous. C'est ce que je désire par-dessus toutes les choses terrestres. Dublin, le 30e jour du premier mois, 1683. Je suis attristé d'entendre parler des souffrances continues de nos amis en Angleterre. Ici, nous sommes encore tranquilles à l'égard de ces choses. Le Seigneur travaille de plus en plus nos cœurs à la reconnaissance, et nous guide avec sagesse pour marcher dignes de ses faveurs, afin que dans son déplaisir, il ne nous les retire jamais, mais que lorsqu'il lui plaît de les ôter, ce soit dans son amour, pour une épreuve pour nous, comme je crois que c'est le cas pour beaucoup de ses fidèles, que mon âme désire qu'il préserve encore dans la foi qui donne la victoire. J'ai été dans le Nord, et je suis passé parmi les amis, et j'ai eu un service béni. J'ai l'intention de quitter cette ville demain vers Wicklow, puis à travers le comté de Wexford pour y visiter les amis. Dublin, le 10e jour du 3e mois, 1683. Nous avons maintenant accompli ce souci de mariage sous lequel nous étions depuis quelque temps, et béni soit le Seigneur, il a été pour nous un guide réconfortant dans nos démarches en cette affaire, à la satisfaction des amis en général qui étaient avec nous. Outre les amis de cette ville, nous avions beaucoup d'amis de la partie méridionale de la nation, qui étaient venus pour être à la réunion semestrielle, et certains plutôt à cause de nous, et une foule d'autres personnes. Nous avons eu une réunion bénie, plusieurs frères étaient avec nous, et la puissance du Seigneur aidant, tout s'est bien passé, et nous avons eu paix et réconfort, et la vérité a été honorée. Non seulement les amis, mais beaucoup de gens sérieux furent grandement touchés par la manière dont cela a été conduit. Eh bien, le Seigneur honorera son nom, sa voix et son peuple, si nous prenons seulement soin de l'honorer. Le Seigneur est bon envers nous. Nous avons sujet de considérer sa bonté envers nous, et véritablement, ce qui est principalement dans nos deux cœurs, c'est de rechercher sa gloire, et par-dessus toute chose, de désirer être préservé dans sa sagesse. Dublin, le 24e jour du 5e mois. On répand le bruit que les réunions seront troublées et dispersées, mais rien n'a encore été fait. Il se peut que les amis d'ici comme dans d'autres lieux aient apporté le fardeau quant à la juste part de souffrance. Et j'espère que les amis auront à cœur de s'abandonner à l'innocence pour souffrir pour ce témoignage que le Seigneur a suscité dans leur cœur, par lequel nous avons été gardés innocents et nets depuis le commencement sous tous les gouvernements. Et ainsi nous n'avons jamais pu toucher, ni nous joindre à ceux qui cherchaient à nuire à quiconque. Cela doit être notre manteau ou notre couverture, et cela donne de l'assurance, et est, et sera, le repos des esprits de tous les fidèles, et ce qui répondra aux consciences de nos adversaires. Je crois que si quelque souffrance survient, elle travaillera au bien en éprouvant nos esprits, notre foi et notre patience, afin que beaucoup puissent mieux se connaître eux-mêmes, ainsi que le Seigneur et sa puissance. De la prison de la Mortchelsea à Dublin, le 9e jour du 6e mois. Il est très probable que nous participions dans une certaine mesure aux souffrances de nos amis et frères d'Angleterre. Le dernier premier jour, le maire envoya le huissier à notre réunion du matin. Je parlais et il me commanda de l'accompagner, ce que, après quelques échanges, je fis. Il ordonna à la réunion de se disperser, mais les amis demeurèrent tranquilles à leur place. Je fus conduite devant le maire, avec qui j'eus un entretien en substance comme suit. Il me demanda pourquoi nous agissions contre le gouvernement, alors qu'on nous avait commandé de ne pas nous réunir. Je lui dis que nous ne faisions rien par mépris du gouvernement. « Mais, dit-il, pourquoi n'obéissez-vous pas alors ?» Je répondis, « Parce que c'est pour nous une affaire de conscience, et ce que nous croyons être notre devoir indispensable, de nous réunir pour adorer Dieu. » À quoi il répondit, « Vous pouvez être égarés. » Je lui dis que si nous étions égarés, nous étions disposés à être instruits, si quelqu'un le pouvait. Ensuite, il allégua que d'autres dissides s'étaient soumis, « Et pourquoi pas nous ?» Je dis, « Ce qu'ils font ne plaidera pas pour nous devant le tribunal du grand Dieu. » Ainsi, après quelques autres échanges, le maire me fit incarcérer dans cette prison. Les professeurs ont quitté leur lieu de réunion publique, l'évêque de Dublin les fit appeler, ils se consultèrent ensemble, et d'un commun accord renvoyèrent cette réponse qu'ils cesseraient. L'évêque fit aussi appeler à S. et lui demanda la même chose des amis, mais A. S. lui dit que nous ne pouvions cesser de nous réunir pour adorer Dieu. À la fin, l'évêque dit, « Si nous voulons nous réunir, nous devons en accepter les conséquences. Toutefois, j'espère que cela tournera à l'honneur de la vérité, que le Seigneur garde les amis fidèles et vaillants. J'espère que Dieu a un reste qui tiendra dans l'épreuve, bien que si les souffrances deviennent dures, cela puisse amener certains à tourner le dos. Que le Seigneur ordonne comme il lui plaît, je ne connais pas de meilleure voie que de s'efforcer d'être prêt à souffrir. » Épître aux amis dans la prison de Gloucester. Chers amis, à vous qui êtes de fidèles souffrant dans cette ville, avec le reste des fidèles de ce pays, qui dans vos cœurs est abandonné à souffrir pour le saint nom du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur, qui vous appelez et racheté, choisi, et donné des cœurs non seulement pour croire mais aussi pour souffrir à cause de son nom, et vous ainsi comptez dignes comme des vases de son choix, à vous tous, dis-je au nom et dans l'amour de Christ Jésus notre Seigneur, j'envoie mes salutations, et avec tout. Ainsi comme membres de ce seul corps, dans lequel nous avons été baptisés par ce seul esprit, en qui se trouve le véritable accès à Dieu, nous avons communion ensemble, et ainsi nous buvons ensemble à ce seul esprit, et nous sommes rafraîchis par l'eau qui coule du rocher vivant, qui suivait l'Israël d'autrefois, lui qui est le rocher de notre âge, le soutien de la génération des justes en ce jour, celui sur lequel nous avons une ferme assurance, de sorte que nous ne pouvons être facilement ébranlés. Bien que les vents soufflent et que les eaux enflent et se déchaînent, et que les inaffermis soient ballottés çà et là, et ainsi affligés dans leurs esprits, pourtant ce rocher demeure comme une demeure et un être de sûreté pour tous ceux qui s'y tiennent fermement, et comme il demeure proche en esprit de sa sainte puissance, ils trouvent dans leurs âmes la source vivante de cette grâce qui en procède, que le monde ne peut ôter, dont le trésor le voleur ne peut dérober ni la tête détruire, car elle est céleste, et gardée par une main céleste. Ceux qui y prennent garde seront prêts à offrir leur substance terrestre, et aussi de même, entre sa main et sa volonté, dont nul homme n'est capable de les arracher. Assurément, en ce jour, il n'y a pas de vrai repos ni de satisfaction pour les âmes ou les esprits des amis, sinon lorsqu'ils viennent ici par la foi, avec leur cœur et leurs esprits. Quand nous y sommes spirituellement, ô ce saint bouclier comme il défend, ô le saint rocher comme nous nous asseyons à son ombre. Ô la sainte joie que ressentent dans leurs esprits ceux qui demeurent sur lui, quoique la tempête soit grande, ô que le Dieu du ciel nous garde tous dans le saint sentiment de cela, afin que nos esprits soient soutenus et ne sombrent pas sous nos exercices dans l'épreuve, de sorte que nous le glorifions tous en notre jour. Bien-aimés, vous enfants tendres et souffrants, dont les cœurs sont sensibles à la gloire de Dieu, et qui êtes donc disposés à vous abandonner vous-même et tout ce que vous avez pour l'amour de son nom, afin d'être du nombre de ceux qui suivent l'agneau partout où il va, et n'aiment pas leur vie jusqu'à la mort, afin de se tenir avec lui sur le mont Sion. Mon cœur et mon âme sont liés à vous, et vous m'êtes proches, et dans l'unité de la vie ancienne, sentant l'amour couler abondamment vers vous, vous avez eu la preuve de la sincérité de mon âme. Ô, les tendres attendrissements de mon esprit dans la douceur de l'amour de Dieu, par lequel je vous atteins et me réjouis avec vous de votre joie, à laquelle toute la colère des hommes ne peut mettre fin. Je sais que vos cœurs sont en paix, et vos esprits libres, et que les poids et fardeaux ont été ôtés de vous qui vous abandonnez librement à souffrir, bien qu'extérieurement dans ces liens, mais nul ne peut recevoir une telle part spirituelle s'il recule devant son témoignage en ce jour d'épreuve. Car la parole est vraie à jamais, ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui. Lui, le chef, a été rendu parfait par les souffrances, et il doit être suivi par tous ceux qui viennent dans la plénitude, afin de participer avec lui à sa gloire. Ceux qui se retirent et voudraient se trouver un lieu de sûreté pour échapper à leurs souffrances pour leur témoignage, quand bien même ils s'enfuiraient aux extrémités de la terre, la main du Seigneur les trouvera, et il n'y aura pas seulement retenue de la part, mais une douleur spirituelle les atteindra là où le cœur est tendre, et à cause de cela, aucun lieu ne sera aisé pour leurs esprits. C'est pourquoi, mes chers amis, demeurez dans la foi et la parole qui justifie, et alors vous régnerez dans la semence qui est héritière pour toujours, en elle vous vaincrez, vous hériterez, vous serez vainqueurs, et ainsi triompherez avec l'agneau qui doit avoir la victoire, devant les pieds duquel les couronnes de tous les puissants doivent être déposées, à qui les rois de la terre et toute chair doivent s'incliner. En lui nous avons confiance, son royaume céleste nous l'attendons, et prions pour sa venue, afin que même ceux qui sont nos ennemis soient, par sa puissance, convertis à Dieu, et aient ainsi avec nous un héritage dans ce royaume qui n'a pas de fin. Ainsi l'humanité pourrait se reposer ensemble dans cette espérance qui ne rend pas honteux, où l'amour de Dieu pourrait être répandu dans tous les cœurs par son esprit. Ainsi Dieu remplit les cœurs de ses enfants de bienveillance envers tous, que le Seigneur nous y garde pour toujours. Chers amis, par ceci sachez que je vais bien, et que je suis maintenant venu à avoir part avec vous aux souffrances qui surviennent pour l'Évangile. Voilà 3 semaines que je suis prisonnier ici, à la Morshalsea de Dublin. Ainsi, dans la véritable communion de l'Évangile, je partage avec vous à la fois les souffrances et la consolation qui nous accompagnent pour ce témoignage. Je demeure votre frère, John Bunny de la Morshalsea dans la ville de Dublin, le 25 jour du 6e mois, 1683, Dublin le 9e jour du 7e mois. Nous sommes persuadés que la main du Seigneur est dans toutes ces choses, et sans doute a-t-il dessein de magnifier son bras, et ainsi d'exalter finalement son propre nom et la précieuse vérité. Et en agissant ainsi, son peuple sera réconforté et recevra la récompense, oui, chacun de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Vraiment, comme notre regard est vers lui dans notre exercice, nous tâtonnons encore autour de nous pour une espérance sûre, celle qui demeure, comme une ancre sûre et ferme, par laquelle nous sommes retenus, de sorte que nous ne pouvons être emportés. En lui est notre consolation, lorsque, quant à l'extérieur, nous semblons n'avoir pas d'endroit plus assuré que sur les vagues ballottées d'une mer troublée et tempétueuse, tout est incertain, il n'y a ni fermeté, ni appui, ni repos pour quiconque en regardant au dehors. C'est pourquoi je pense souvent que je suis convaincu que c'est la voix de Dieu que de souffler ainsi sur les nations du souffle de son déplaisir, afin que toutes les eaux, car les peuples sont des eaux, soient brassées ensemble, rendues sans repos, poussées en monceau et dans la confusion, et qu'elles deviennent ainsi une mer dans laquelle Babylone, comme une grande meule, doit tomber pour faire sa fin perpétuelle. Ce mystère Babylone dont il est parlé jadis, qui a tant prévalu enivrer les nations et dominer sur les peuples et les langues, non pas un seul. C'est pourquoi le Seigneur appelle à sortir d'elle, mais ses péchés, ses plaisirs et ses délices, beaucoup ne veulent pas s'en séparer, et c'est la raison pour laquelle beaucoup y demeurent, qui ne se pensent pas dans ses frontières. Mais les nations sont ivres de son vin et ne savent pas ce qu'elles font, car leur intelligence est perdue. Oh, la tristesse de ce jour, mon âme le contemple souvent, mais la grandeur de leurs péchés l'attire sur eux, et cela est venu à la vue et au souvenir du Dieu redoutable. Que tous les justes se réjouissent donc, eux qui ressentent véritablement la rédemption hors d'elle, et sont venus, par Christ la semence, à être fils et filles de Sion, et ainsi héritiers de la paisible Jérusalem, bâtie sur le roc et le fondement contre lesquels les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Nous sommes encore ici détenus prisonniers, et nous avons dernièrement écrit au maire, mais il répondit qu'il ne nous mettrait pas en liberté sans un ordre du député. Alors nous lui avons écrit, et à S et SC. Sont allés le voir, et il a été très aimable avec eux, et leur a dit qu'il avait pour nous plus d'affection que pour tout autre dicide, parce qu'il croyait que nous agissions honnêtement. Dublin, le 4e jour du 8e mois, 1683. J'ai été quelque temps à la campagne, et je ne suis revenu en ville courir. Je suis allé aux réunions provinciales à Rosnally, et j'ai visité de nombreuses réunions. J'ai été réconforté avec les amis par la bonne présence de la puissance qui nous accompagnait. Les choses vont assez bien parmi les amis, et nos réunions sont grandes et fournies. Nous ressentons peu de ces souffrances qui pèsent lourdement sur nos chers amis en Angleterre, que le Seigneur nous garde tendres, petits et humbles, afin que nous soyons dignes d'une telle miséricorde de la main du Seigneur. Dublin, le 16e jour du 8e mois. Je suis maintenant libéré de mon emprisonnement, nous avons écrit quelques lignes au député qu'il a porté au conseil. Après quoi il a envoyé son secrétaire au greffier de la ville avec son ordre de nous relâcher, lequel était très complet et clair, sans rien exiger de nous. Je n'ai pas entendu dire que les amis, dans aucune partie de cette nation, aient été inquiétés. Nous jouissons de grandes faveurs de la main du Seigneur. Que nous puissions en être dignes pour toujours, et être ainsi conduits à sentir ce que nos chers amis en Angleterre souffrent encore, alors les miséricordes sous lesquelles nous vivons seront justement appréciées. Dublin, le 9e jour du 12e mois. J'ai parcouru toutes les réunions en Ulster, et je ne suis rentré que le 3e jour de cette semaine. J'ai passé un temps béni parmi les amis, et j'ai trouvé que les choses, dans l'ensemble, allaient très bien. J'ai eu de grandes réunions paisibles, ce qui est une miséricorde que je désire que le Seigneur sanctifie pour nous, afin que nous marchions dignes d'elles tant qu'elles nous sont accordées, et lorsque, à ses yeux, il conviendra d'en ordonner autrement que nous soyons prêts. J'ai été fort peu à la maison ces derniers temps, et je ne sais rien sinon qu'il se peut que je parte encore la semaine prochaine hors de la ville vers l'autre bout de la nation. Dublin, le 17e jour du 1er mois, 1684. Je suis rentré aujourd'hui. J'ai traversé la plus grande partie du sud et de l'ouest, j'ai fait un bon voyage, et j'ai trouvé les amis généralement en bon état, et toutes nos réunions paisibles. Dublin, le 20e jour du 1er mois. Dans ma dernière lettre, j'ai laissé entendre que je venais à peine de rentrer après avoir visité les amis à l'extrémité méridionale de la nation, et ainsi après la réunion provinciale de Casteldermo. Je suis rentré le 2e jour, et un mariage fixé, le mariage d'Amostodar, devait avoir lieu le 3e jour, ce qui eut lieu en conséquence, et il y avait une foule de gens de sorte que nous avons eu une bonne occasion, et les personnes en général furent bien satisfaites, si bien qu'une très grande réputation de recommandation se répand dans la ville au sujet de notre ordre et de notre méthode, et de la manière grave et solennelle dont nous l'avons accompli. C'est un grand réconfort pour nous lorsque, en toutes nos voies, nous honorons la vérité. J'ai eu un hiver chargé à voyager, et avec succès, et maintenant je ne vois rien qui m'empêche d'avoir la liberté de rester quelque temps à la maison. Le Seigneur est bon envers nous, et il ordonne les choses pour notre consolation, et nous sommes réconfortés en lui, et les uns dans les autres, béni soit son nom à jamais. Dublin, le 9e jour du 3e mois. C'est justement le temps de notre réunion semestrielle, et il y a beaucoup d'amis en ville. Nous avons eu une très grande réunion, très calme et bonne, et les choses en général vont très bien parmi les amis en ce qui concerne la vérité. Nous avons sujet de rendre grâce au Seigneur pour ses miséricordes et les consolations dont nous jouissons, lui qui est l'auteur de toutes miséricordes et consolations, sanctifiant toutes choses justement à ceux qui le craignent et l'aiment, par la sanctification de leur cœur par sa parole, qui garde, soutient et maintient. Que le Seigneur garde tous nos cœurs affermis en cela, et alors toutes choses concourront au bien, selon l'ancienne parole. Crabtree Beck dans le Cumberland, le 12e jour du 6e mois. J'ai quitté Dublin, il y a une semaine, le 6e jour, j'ai quelque intention de passer en Écosse, mais je ne suis pas encore certain du moment, toutefois j'espère, si le Seigneur me garde en liberté, revenir dans ce pays. Grace Southern, le 19e jour du 6e mois. D'ici 2 ou 3 semaines, j'espère être aussi loin qu'Édimbourg. Leith, le 6e jour du 8e mois. J'ai fait un voyage très paisible et prospère depuis mon arrivée plus tôt en Écosse. Je suis venu à Édimbourg au temps fixé, et je suis resté ici un premier jour, puis j'ai pris la route vers le nord avec J, H et JT. Je passais environ 3 semaines là-bas et en chemin. Nous avons eu des réunions presque chaque jour pendant que j'y étais, et un service béni et ouvert par la puissance du Seigneur parmi les amis. Le peuple y est ouvert et au cœur tendre, et ils se sont réjouis de ma venue, car aucun ami anglais n'était venu parmi eux depuis longtemps, étant dégagé JT. Et moi sommes partis il y a une semaine aujourd'hui, laissant J. H. Là-bas, nous sommes arrivés dans cette ville le 4e jour de la semaine dernière, et nous étions à Édimbourg le 5e jour à leur réunion, et hier nous avons eu une réunion bénie là-bas le matin, et ici l'après-midi. Demain, nous avons l'intention de prendre la route vers l'ouest, et nous espérons être dégagés d'ici une semaine pour aller en Angleterre, et être dans le Cumberland la semaine prochaine demain, si le Seigneur le veut. Jusqu'ici tout a été très calme partout où je suis allé, et je n'entends rien, sinon que les réunions des amis sont calmes dans toute l'Écosse, et que les amis sont autorisés à rester tranquilles, mais en certains endroits on est fort occupé avec d'autres gens. Il y a eu ici pas mal d'agitation au sujet d'un complot, mais de ces choses nous ne savons rien, et nous n'avons aucune part à de tels agissements, et c'est pourquoi nous ne désirons pas nous en mêler. Bien que les actions d'autrui puissent nous attirer des souffrances, notre bonheur, néanmoins, est d'être gardés innocents, afin que si nous souffrons, ce ne soit pas pour avoir fait le mal, et alors tout ira bien. Eaglesfield, le 12e jour du 9e mois. Vraiment, en ce jour d'épreuve, où il est probable que notre foi et notre amour envers Dieu soient mis à l'essai, notre plus grand souci est toujours d'être dans nos cœurs, véritablement et sagement abandonnés et résignés à la volonté de Dieu, afin que nous puissions y trouver repos, dans et sous tout ce que le Seigneur pourra ordonner pour nous ou nous appeler à faire. Et alors nous pourrons avoir la paix dans chaque exercice et avoir, dans nos esprits, la domination sur toute opposition, dont beaucoup sont rencontrés en cet âge par le véritable Israël. J'ai très bien traversé l'ouest de l'Écosse et je n'ai rencontré aucun trouble, tout était calme quand j'y étais. Nos réunions sont calmes dans le Cumberland. Je suppose que je peux rester encore environ 2 semaines ici, Stockton, le 11e jour du 10e mois. Je suis sorti du Cumberland il y a environ 2 semaines, j'ai été à Strickland Red, puis je suis venu dans le Bishopric. Et je pensais n'avoir fait que passer par Darnton, Darlington et cette ville, puis aller dans le Yorkshire. Mais quand j'étais à Darnton, il m'est venu de rendre visite aux amis plus avant dans ce comté. Je suis donc allé à Durham, et j'y ai eu une réunion bénie, et j'ai visité les prisonniers. Ensuite je suis allé à Sunderland, j'y ai tenu une réunion, puis à Shields et chez T. F., où j'ai tenu une réunion. De là je suis revenu à Shotton, puis à cette ville, et j'ai eu hier soir une réunion bénie, c'était l'heure de leur réunion. Ici on les empêche d'ordinaire d'entrer dans leur maison de réunion, mais hier soir nous avons pu entrer, et la réunion était pleine et paisible, et ainsi ont été toutes les réunions là où je suis passé. Maintenant je suis prêt à aller dans le Yorkshire, et j'espère être à York d'ici environ 2 semaines. Je suppose que je pourrai y être le premier jour dans 2 semaines. Grerig, le 26e jour du 11e mois, 1684. J'ai fait un voyage très réconfortant et paisible, et je suis passé par Cleveland et les Landes jusqu'à Whitby, puis de là je suis monté à Malton, et à York. Les réunions ont été calmes tout du long partout où je suis allé. Hier il y a 15 jours, un constable était à la maison de réunion avant mon arrivée, et se tenait sur le chemin pour parler avec l'ami avec qui je venais, c'était juste avant les sessions. Il avait un mandat et devait faire son rapport aux sessions, et il menaça donc que si nous ne cessions pas de nous réunir ce jour-là, il devrait nous conduire devant un juge de paix. Toutefois, après avoir discuté un moment avec lui, nous nous sommes séparés et nous sommes entrés dans la réunion, et lui s'en est allé et n'est pas entré dans la réunion. Ainsi nous avons eu une réunion bénie, et nous nous sommes quittés en paix, et la puissance du Seigneur a dominé sur tout, à notre grande joie. C'est là toute l'apparence de molestation que j'ai encore rencontrée, et j'ai eu une très bonne saison, et beaucoup de réunions, depuis que j'ai quitté York. Dans le Yorkshire, j'étais chez Robert Lodge, et j'ai eu sa compagnie assez longtemps en dehors du Yorkshire. Je suis allé à Lancaster, et après avoir visité les amis, je suis venu dans le Westmoreland à la réunion de Preston, et hier j'étais à Sedberg. Nous avons eu une réunion paisible, mais nous avons été contraints de nous réunir hors de la maison de réunion, dans la rue, parce que la maison de réunion était verrouillée pour empêcher les amis d'entrer. J'ai l'intention d'avoir quelques réunions dans ce comté, puis de descendre à Swarthmore et d'aller dans le Cumberland, selon que le Seigneur ouvre la voie. Eaglesfield, le 25e jour du 12e mois. J'ai fait un voyage très paisible et j'ai visité très pleinement les réunions des amis dans le Westmoreland et tout y était calme. Depuis mon arrivée dans le Cumberland, j'ai été à Carlisle et à la frontière. Maintenant, il semble que mon service soit achevé et je me prépare à rentrer chez moi. J'étais aujourd'hui à Workington et demain j'ai l'intention d'aller à Whitehaven et de saisir la première occasion pour Dublin. Jusqu'ici, j'ai été très bien préservé à travers tous mes voyages et maintenant j'espère rentrer chez moi. Dublin le 25 jour du premier mois 1685. Je suis bien arrivé ici hier soir, mais j'ai été débarqué dans le nord, sur la rivière Strongford, à environ 70 milles de Dublin et à environ 24 de Lisnagovie. Ayant été débarqué là, j'ai trouvé dans mon cœur une ouverture pour rendre visite aux amis dans le nord. J'ai donc passé près de 2 semaines parmi eux et j'ai eu de nombreuses bonnes réunions. Je suis très heureux et mon cœur est véritablement reconnaissant au Seigneur pour sa préservation pendant ce dernier voyage, si sûr et sans encombre, et parce qu'il a ordonné ma route de manière si réconfortante jusqu'à la maison, où j'espère pouvoir être utile à ma place et un réconfort pour les amis. Le Seigneur notre Dieu doit être pris en considération par nous en toutes choses. Je trouve que les choses vont généralement assez bien parmi les amis, comme auparavant, et que les réunions sont très grandes et paisibles ici et dans le Nord. J'ai l'intention de sortir de la ville pour la réunion provinciale, Dublin, le 16e jour du 3e mois. À cette réunion semestrielle, nous avons eu une très grande affluence d'amis venus de la campagne, beaucoup disent n'en avoir jamais vu autant auparavant. À nos réunions publiques, une foule d'autres personnes sont venues, bien plus même que ceux qui pouvaient entrer dans notre maison. Ils étaient très sérieux, de sorte que la vérité a une bonne place parmi les gens sérieux. Quoique les professeurs, qui reculent et se cachent, nous dit-on, invectivent contre les amis, ils semblent comme abandonnés à la dureté de cœur, et s'y arrêter dans leur aveuglement et leur endurcissement qu'ils continuent jusqu'à ce que la verge vienne sur eux. Car ils ne prennent rien assez à cœur pour être ainsi détournés de la mauvaise erreur de leurs esprits durs et prévenus. Il paraît qu'ils envient le bien des amis et qu'ils sont offensés de ce que nous ne fuyons pas dans des trous comme eux. Mais quant aux amis, ils sont très joyeux et nous avons eu une saison très bénie et nous sommes gardés dans l'unité, la paix et la concorde dans nos réunions et nos préoccupations. Et la bonne présence du Seigneur est précieusement avec nous, pour notre réconfort et notre consolation. Béni soit le Seigneur, il ne nous fait pas défaut, tant pour sanctifier nos cœurs que pour les remplir de ses miséricordes spirituelles, et pour ajouter d'autres miséricordes et bénédictions, par lesquelles il peut rendre nos jours agréables, afin qu'avec allégresse et joie d'âme nous le servions et le louions, lui qui est digne à jamais. Amen. Dublin, le 4e jour du 6e mois. Je suis rentré hier, ayant parcouru l'extrémité méridionale de la nation, et ayant été absent entre 6 et 7 semaines, et j'ai fait un voyage très réconfortant parmi les amis et paisible. Béni soit le Seigneur pour ses miséricordes envers nous. Épître à John Banks, Dublin le 19 jour du 6e mois, 1685. Cher John Banks, à toi avec tes compagnons de captivité, qui souffrez pour le bienheureux témoignage de cette précieuse vérité en laquelle nous avons cru, l'affection réelle et tendre, et l'amour de mon cœur et de mon âme se répand en ce temps. Et dans la douceur et la paix de ce qui est notre vie, je te salue de tout cœur, et dans son unité je vous adresse à tous un tendre salut, vous dont les cœurs sont maintenus en cela, et sous la sainte conduite de cela pourquoi vous souffrez. En ceci est notre unité, qui en elle-même vit et règne au-dessus de tout, et régnera dans sa propre pure domination et dignité, à savoir la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui principauté, trône et domination doivent être soumis. C'est pour son témoignage, tu le sais, que vous souffrez, à savoir le témoignage de Jésus, que vous avez reçu de lui par son esprit, et ainsi scellé dans vos cœurs. quoique beaucoup ne comprennent pas le poids et la certitude de votre témoignage pour lequel vous souffrez, et puissent donc le regarder légèrement. Pourtant vous qui jouissez de la puissance et avez reçu l'esprit de Jésus qui est l'esprit de prophétie, et donc son témoignage en cela vous en sentez le poids, vous en connaissez la certitude, et ainsi dans vos souffrances vous avez votre paix et votre justification. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, veillez à tenir tous fermement dans vos cœurs, dans la riche possession de cela pourquoi vous souffrez, afin de sentir votre récompense avec vous, et votre consolateur en vous pour soutenir vos esprits au-dessus de toutes vos souffrances, et ainsi vous aurez en vous-même une satisfaction, que quoi que d'autres disent ou puissent penser de vos souffrances et de leurs causes, vous savez que c'est pour la vérité et son témoignage que vous souffrez, et pour garder vos consciences nettes devant Dieu. Ainsi, dans l'homme caché du cœur, vous reposez en tranquillité, dans cette vie cachée que vous recevez de Christ, et voici votre paix et votre consolation, que nul ne peut vous enlever, et nul ne la connaît, sinon ceux qui sont en communion avec vous, qui vivent dans le même témoignage et l'aiment. Ceux qui ne connaissent pas votre récompense, votre couronne ou votre paix ne peuvent atteindre à l'enlever, et c'est notre joie d'avoir une couronne et un héritage qui sont hors de leur vue, et ainsi hors de leur portée. Oh, prenez donc tous garde, afin que, par négligence ou relâchement d'esprit, ou par toute autre chose, vous ne soyez pas séduits ou trahis au point de le perdre, pendant que vous souffrez pour cela. Vous savez, mes amis, que c'est possible, de telles choses se sont produites en notre âge, tandis que certains souffraient pour la vérité, ils ont été trahis loin de la vérité, et de l'innocence et de la simplicité de celle-ci dans leur cœur, et ainsi ils ont perdu la vérité, précisément celle pour laquelle ils avaient été appelés à souffrir. Car vous savez que c'est une chose intérieure, et qu'elle doit être tenue dans l'unité intérieure de l'esprit, dans une communion spirituelle, et s'il n'y a pas de vigilance, même tandis que nous faisons extérieurement quelque chose pour la vérité, intérieurement nous pouvons la perdre, et perdre notre justification par elle, et alors où irons-nous chercher notre paix et notre récompense? Que le Dieu de ma vie vous donne à tous sagesse et crainte, et vous remplisse de sainte révérence, afin que vous demeuriez dans le respect devant lui, et que vous veilliez sur votre chemin spirituel, et sur les pieds de vos âmes et de vos pensées, afin que vous marchiez dans la voie invisible de la paix et de la justice. Chers amis, vivez dans la paix et l'amour ensemble parmi vous, et dans une vie sainte et solide devant tous les hommes, vous tenant hors de l'esprit du monde en toutes choses, afin que, puisque c'est pour des raisons religieuses que vous souffrez, vous paraissiez en toute autre chose être des hommes religieux, sinon, vous le savez, la vérité ne peut être honorée par votre souffrance. Car si des hommes qui souffrent pour la religion, ou en raison de la religion, ne paraissent pas être des hommes religieux, cela renverse la gloire et la beauté de leur religion, et la rend méprisable aux yeux des hommes. C'est pourquoi Christ a commandé que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Prenez garde de vous provoquer les uns les autres à quoi que ce soit de mauvais, mais efforcez-vous de vous stimuler et de vous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, afin de vous édifier les uns les autres en cela, et d'aider ainsi à porter les fardeaux les uns des autres, et d'accomplir la loi de Christ, afin que vous soyez tous maintenus ensemble dans la justification et la paix. Ainsi, chers amis, mon cœur étant plein d'amour pour vous, j'envoie ces quelques lignes comme témoignage de cela, par lesquelles vous pouvez savoir que vous êtes dans mon souvenir dans l'amour de Dieu, et que mon cœur porte une honorable estime à votre témoignage et à vos souffrances dans la justice pour ce même témoignage. Je souhaite qu'on fasse souvenir de moi aux amis de la campagne, tant en dessous de Carlisle qu'au-dessus, et aux amis dans la ville, à John Carlisle et sa famille avec les autres, le tendre amour de ma femme est pour vous tous. Mon amour est avec vous. Adieu, de votre ami John Bunny Dublin, le 6e jour du 7e mois. Je suis heureux d'entendre que les choses demeurent si paisibles et tranquilles en Angleterre, et que les amis ont quelque répit pour se reposer de la persécution. C'est la miséricorde du Seigneur envers nous, mais notre innocence est ce qui doit parler pour nous, et si nous la perdons, notre défense se retirera de nous, et alors il n'y aura aucun refuge, car toute aide d'en bas est vaine. Ainsi notre bonheur sera de demeurer tranquille, avec notre foi en lui, car il est capable de préserver, lui qui promit jadis qu'il leur donnerait faveur aux yeux du roi de Babylone. Il leur eût été sécurité de se confier en sa parole, mais en suivant leur propre voie, ils se sont attirés la ruine, et il en sera de même maintenant pour tous ceux dont l'œil n'est pas sur le Seigneur pour affermir leur esprit sur lui, mais qui regardent au dehors pour suivre leurs propres inventions. Je sais que la vérité tiendra à l'écart de toutes ces choses, si les amis prennent soin de demeurer sous sa conduite, mais si des raisonnements charnels prévalent dans l'incrédulité, alors l'œil se détourne, et l'esprit tombe dans la hâte, ainsi la patience et la longanimité se perdent, et l'espérance et la foi sont laissées tomber. Alors la créature ne peut ni se confier dans le Seigneur, ni demeurer à juste titre en son temps et en sa saison. Nos réunions sont très calmes et paisibles, ce qui est une miséricorde que nous estimons grandement, et nos cœurs reposent dans la vérité du Seigneur, et c'est notre consolation. Tant là-bas qu'ici, et partout où nous sommes, notre place sera d'être préparés à souffrir, ce qui est probablement notre part pour la vérité, et ce n'est que comme autrefois, si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ Jésus, il doit souffrir la persécution. Je suis prêt à sortir de la ville pour visiter les amis dans le comté de Wicklow. Dublin, le 19e jour du 7e mois, 1685. Je suis affligé que tant d'occasions de scandale soient données ici à certains amis, par quelques-uns qui, là-bas, à savoir à Londres, prennent des libertés en retournant à de telles choses que la vérité condamne, et deviennent ainsi des fauteurs d'orgueil et de vanité, qui croîtront trop vite, attirant sur l'homme le déplaisir du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que les amis demeurent dans ce qui est simple, et qu'ils s'attachent à la croix dans leur métier et leurs affaires, et dans leurs vêtements, et en toutes choses, afin qu'ils demeurent des témoins fermes pour Dieu dans la justice, contre l'orgueil et toute la vanité du monde, car c'est là que réside notre sécurité pour toujours. Je désire que nous vivions à la hauteur de la vérité en toutes choses, afin que la bénédiction nous accompagne. En vérité, nous devons être circonspects, car toute chose licite n'est pas expédiente, parce qu'une liberté illicite pourrait en être fortifiée. Que le Seigneur nous garde tous, dans sa sagesse, véritablement bas et humble, afin que nous l'honorions encore en toutes choses, et demeurions, durant notre temps, un peuple pour sa gloire. Car si de notre temps, nous laissons l'esprit du monde prévaloir au point de renverser notre propre témoignage, quel exemple et quelle trace laisserons-nous à ceux qui viendront après nous? Je suis rempli, et je pourrais dire beaucoup, car mon cœur est préoccupé d'entendre ceux qui, eux-mêmes, ne sont pas aussi bons qu'ils le devraient, se fortifier par de mauvais exemples. Car si certains peuvent être lents à prêter attention à ce qui est bon, de sorte qu'ils apprennent le bien par son exemple, ils sont pourtant prompts à prendre encouragement du contraire. Épître aux amis. Dublin, le 12 du 8e mois, 1685. Mis, dans l'esprit universel de vie et de vérité, de justice et de paix, l'affection tendre et l'amour pur de mon cœur s'épanchent et vous atteignent tous, vous qui êtes de vrais amoureux de la puissance et de la sainteté de ce même esprit, car c'est en lui seul que nous portons l'image de celui dont le nom est sainteté, et dont la nature et l'être sont en pureté, de sorte que c'est en cela seulement que nous attirons et pouvons attirer près de lui, avoir communion avec lui, et jouir de sa présence, lui qui est notre Dieu, notre vie. Dans l'unité de cela par quoi nous avons été vivifiés, et par quoi nous vivons pour celui qui nous a vivifiés, je vous exhorte et vous supplie tous de considérer avec révérence ces visitations secrètes et douces, par sa sainte puissance sur vos esprits dans vos cœurs, afin que vous sentiez cela y paraître, et qu'ainsi par l'éclat de cette apparition, il détruise celui dont l'avènement est selon l'opération de Satan, avec toute puissance et toute séduction de l'injustice en ce qui périsse, et non seulement qu'il paraisse, le détruise lui et ses. Si vous veillez, vous ne veillerez pas en vain, car le Seigneur sera votre gardien, et alors, puisque c'est lui qui garde la ville, la sentinelle ne veille pas en vain. Ainsi vous pourrez voir cela s'accomplir dans vos propres cœurs, et avoir consolation et confiance avec le Saint David, et avec lui, vivre au-dessus de la crainte du mal, quand même vous marcheriez dans l'ombre de la mort, parce que le Seigneur est avec vous. Amis, veillez à tous vous souvenir de lui lorsqu'il apparaît par sa puissance et l'Esprit de grâce dans vos cœurs, et laissez-lui place là, sans qu'il soit resserré, pressé ou opprimé, car il se plaît à y demeurer seul, et à avoir tout le cœur pour lui, et à sa disposition, afin de le remplir de ce qui lui plaît, et en quoi seul il peut être glorifié et honoré. C'est pourquoi il réclame le cœur, disant « Mon Fils, donne-moi ton cœur », et Christ commande que nous l'aimions de tout notre cœur. Laissez donc place à lui dans vos cœurs, et prenez garde que par ce monde son esprit, sa nature, et l'amour des choses qui s'y trouvent vos cœurs ne soient pas remplis et tellement occupés qu'il n'y ait plus de place pour celui dont la venue est avec une telle gloire et une telle plénitude qu'il remplit tous ceux qui sont justement pauvres et vide cette plénitude de cette richesse et de cette gloire, qu'il n'y a aucun manque pour ceux qui l'ont pour part et héritage, et qui garde un cœur simple devant lui. Mais là où le cœur est rempli de délices pour d'autres choses, ou de désirs après d'autres choses, hors de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire hors de sa faveur, là le Seigneur ne prendra pas plaisir à demeurer, il n'y a pas de place, non, il ne prendra pas plaisir à y paraître, car ce serait pour lui peine et oppression. N'en fut-il pas ainsi autrefois, lorsqu'il formula sa plainte contre Juda et Israël? Comme on le voit à Amos 2, comment le Seigneur plaide avec zèle les menaces de ce qu'il amènerait sur pour leurs péchés, qu'il énumère contre eux, et pour aggraver leurs crimes comme il pouvait justement le faire, il leur dit aussi ce qu'il avait fait pour eux, comment il avait détruit les Amoréens pour eux, les avait fait sortir du pays d'Égypte, les avait conduits dans le désert, leur avait donné le pays des Amoréens en possession, avait suscité parmi leurs fils des prophètes, et parmi leurs jeunes gens des Nazaréens. Mais leur dit-il, « Vous avez donné du vin à boire à mes Nazaréens, et vous avez commandé à mes prophètes en disant, « Ne prophétisez pas, voici, je suis pressé sous vous comme un chariot est pressé lorsqu'il est plein de gerbes. » On peut comprendre ici que, lorsqu'il a été à l'œuvre et a fait du bien par sa puissance glorieuse, lui qui agit merveilleusement pour eux, et maintenant aussi en eux qui croient en sa puissance, si l'on s'éloigne de lui et que l'on laisse entrer d'autres choses dans le cœur, là où il devrait régner et avoir sa demeure en l'homme. Et ainsi avec l'homme, cela devient pour lui une peine et une oppression, une provocation, il ne le supportera pas toujours, ni épargnera l'homme, bien qu'il soit longanime, comme on le voit très pleinement dans cette prophétie d'Amos. Or, considérant ces choses anciennes, et observant comment, de notre temps, le Seigneur nous a fait connaître sa bonté accoutumée, qui dépasse de beaucoup les privilèges extérieurs d'Israël selon la chair, car ce dont il nous bénit est la possession et la jouissance d'un degré de sa propre vie, lui le Créateur par lequel il a créé toutes choses, ce qui est plus que la jouissance de la créature. La perte de cela fut la grande peine infligée à Adam s'il rompait le commandement, et l'ayant perdu, elle nous est de nouveau rendue par Jésus-Christ, le second Adam, le Seigneur venu du ciel, et l'ayant reçu, nous vivons ainsi pour Dieu, et en cela nous le servons. Chers amis, ce qui est surtout dans mon esprit à votre égard, c'est de vous prier et vous supplier tous d'être tendres de cœur et vigilants sur vos esprits, afin de ne rien laisser entrer, ni vous joindre à quoi que ce soit, qui apporterait peine ou oppression à votre vie, ou vous conduirait à transgresser sa loi. Souvenez-vous de l'exhortation de l'apôtre, « N'attristez pas l'esprit, par lequel vous avez été scellés. Si vous êtes soigneux, vigilant et sage, en prenant garde à la sainte conduite, aux bienheureuses impulsions et à la direction de cet esprit et de sa loi, vos âmes demeureront dans la paix, et vos pieds marcheront sur un chemin sûr, le chemin même de la paix, vos pas ne glisseront pas. Vous attesterez, alors la vérité de ce que David disait autrefois, « Les justes hériteront la terre et y demeureront pour toujours, car, disait-il, la bouche du juste prononce la sagesse, et sa langue parle avec discernement. La loi de son Dieu est dans son cœur, aucun de ses pas ne glissera. Voyez donc ici ce qui empêche de glisser, la loi de Dieu qui est dans le cœur, cela a préservé David, car elle était comme une lanterne à ses pieds et une lumière sur ses sentiers. Mes chers amis, vous pouvez être heureux, oui, nous pouvons tous être heureux, si nous sommes aussi attentifs que nous le devons à marcher selon cette règle. La douceur, la paix et la gloire dont il remplit le cœur de tous ces gens, qui prennent garde à sa loi, l'esprit n'est pas attristé, la vie de l'âme n'est pas opprimée, l'âme, la vie où l'esprit de l'homme est en repos, et ainsi dans la glorieuse liberté des fils de Dieu, dans cet état où il peut chanter au Seigneur et le louer. Ainsi vous tous, veillez sur votre demeure et votre liberté intérieure, et sur votre liberté spirituelle, à l'abri de toutes les corruptions du monde et de la chair, tant au-dedans de vous-même que contre toutes les tentations du dehors, afin que vous régniez pour toujours dans la domination de la semence, Christ Jésus, et qu'ainsi avec lui, vous soyez cohéritiers de cet héritage et de cette possession céleste qu'il a acquis pour vous. Dans l'unité de cette vie qui règne sur tout, je vous salue très affectueusement, vous tous qui aimez la vérité, et en cela je désire que la Verge de vie soutienne vos esprits par sa puissance au-dessus de tout ce qui voudrait souiller ou opprimer, afin que vous soyez gardés pour demeurer fils et filles de Dieu, irréprochables en et parmi cette génération tortueuse et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières, à la gloire de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, lui qui par-dessus tout est digne de gloire. De votre ami et frère dans la vérité, John Bunny Dublin, le 18e du 9e mois. Nous avons eu une saison réconfortante à cette réunion semestrielle, calme et paisible, et dans l'amour et l'unité entre nous, de sorte que nous avons sujet d'être véritablement reconnaissants au Seigneur pour cette miséricorde, parmi toutes les autres miséricordes que nous recevons de sa main bénie. Lettre à Roger Robert Dublin, le 23 du 11e mois, 1680, cher R. L'amour et l'unité de la vérité bénie, qui vit et demeure à jamais, je te salue très affectueusement, toi et ton épouse, et voici le désir de mon cœur pour vous devant le Seigneur, que par sa main bénie et sa puissance vous soyez soutenus au milieu de toutes les épreuves qui peuvent survenir, et que dans vos pensées vous soyez gardés avec un œil invisible tourné vers le Seigneur, remarquant ses dispositions, puisque c'est sa main qui accomplit ce qu'il juge bon, et alors dans sa crainte et son amour, il y aura une soumission reste. Bien que la nature, dans l'affection vraie et naturelle dont les hommes et les femmes de bien ne peuvent être dépourvus, puisse être brisée et profondément abattue pourtant, tant que l'esprit est préservé du murmure contre ce que fait le Seigneur, tout ira bien, il y aura un cœur capable de lui rendre ce qui lui est dû, comme ce fut le cas pour Job. Cher R, je dois dire que mon cœur est préoccupé pour toi, tant à cause de toi-même, ayant entendu parler de ta grande faiblesse et de l'affliction que tu as subie, que aussi à cause de la perte de ta chère et tendre fille, qui, en ton absence, a été enlevée à toi et à nous. Mais que dirais-je? Il en est ainsi, et le Seigneur l'a fait, et il n'est pas prudent de disputer avec lui, ni de dire « Pourquoi a-t-il fait cela ?» mais soumets-toi tendrement à sa volonté, et bénis celui qui donne et qui reprend, comme il le juge bon. Toutefois ceci, je pense, je puis te le dire, à toi et à ton épouse, sans crainte, vous n'avez pas à vous affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance, à cause du fondement que Dieu a donné pour une sûre espérance de son bien-être éternel, c'est le but vers lequel nous tendons tous, et heureux sont ceux qui l'atteignent. Car j'étais avec elle le jour de sa mort, l'après-midi, et j'ai eu avec elle un moment sérieux et profond. Elle m'avait fait appeler, et me dit, dès que j'arrivai auprès d'elle, qu'à présent elle était convaincue qu'elle devait mourir, et son cœur était entièrement tourné vers l'assurance de la paix avec le Seigneur, et ses désirs à notre égard, à savoir envers son mari et moi, étaient que le médecin ne la trouble pas, car elle ne voulait pas qu'on l'empêche d'un départ paisible. Car son cœur aspirait à une sortie paisible de ce monde, comme cela ressortait clairement de ses paroles à plusieurs reprises. Elle était très lucide, et me parlait avec une bonne compréhension, et semblait se préoccuper de beaucoup, comme elle disait qui venait aux réunions à Dublin, sans prendre garde à leur état ni à l'assise de leur esprit, dont elle craignait qu'ils ne fussent à peine sauvés. Mon cœur, je dois le dire, fut profondément touché par son épreuve et son souci, et fut consolé dans le sentiment de cette présence vivante qui était avec nous en ce moment-là. Quand nous eûmes passé quelque temps ensemble, et que nous eûmes été ranimés, et que je dus m'en aller, elle prit très solennellement congé de moi avec une grande affection, et témoigna combien ma visite lui avait été chère, ajoutant, d'un ton grave, « Adieu, cher John, si je ne te revois jamais. » Ainsi je partis. Quelques heures plus tard, la mort la frappa. Le soir, mon épouse et moi allâmes de nouveau la voir, nous la trouvâmes très mal, mais elle demeurait tranquille sous l'extrémité de sa douleur. Nous, avec plusieurs autres amis, restâmes assis près d'elle et veillâmes auprès d'elle jusqu'à son départ, qui eut lieu vers la 11e heure de la nuit. Elle s'en alla dans la tranquillité, comme je l'avais constaté auparavant d'être son désir. Nous, assis et debout tranquillement auprès d'elle, le cœur brisé, et je ressentis une puissance glorieuse qui fondait, attendrissait mon esprit, et une clarté et une lumière qui resplendissaient, et cela demeura doucement dans mon cœur après son départ. Elle n'est pas allée dans les ténèbres, mais elle est dans la lumière. Le sentiment de cela me fut une grande satisfaction, car je sais que la gloire est là, dans la lumière pour toujours. Maintenant, pauvre agneau, c'est son gain, bien que ce soit votre perte et la nôtre. Car au vu de son âge, elle était un exemple modeste et bon, et, comme elle me le dit en ce moment-là, elle n'avait jamais été portée à la vanité. Je perçus que son souci était parfois grand pour toi, craignant que ton épreuve ne fût très lourde. Eh bien, je dois considérer que la perte d'un si cher enfant ne peut que toucher de très près des parents tendres, pourtant vous pouvez être consolé dans l'assurance de son bien-être, et ainsi demeurer en repos, et même dire avec David, « Nous pouvons aller vers elle, mais elle ne peut venir à nous, et ainsi consoler vos cœurs dans le Seigneur, et reposez-vous dans sa volonté, et cher R. » Ceci peut te trouver en une santé un peu meilleure que ce que nous avons entendu ces derniers temps, en tout cas, je puis dire que mon cœur désire sincèrement qu'il en soit ainsi. Si le Seigneur te donne la force, je serai heureux de te voir ici, car je pense que, tout le temps de ton absence, ta place semble vide, je ne puis admettre que tu sois loin d'entre nous. Mais si le Seigneur te donne la force, tu devrais être ici, portant et prenant ta part avec nous, car je te considère comme l'un des nôtres, et c'est pourquoi je pense que tu ne devrais pas tarder, dès que la voie s'ouvrira. L'amour très cher de mon épouse est pour toi et ton épouse, et notre amour va aussi bien à Hélène Kahl et aux amis là-bas. Pour plus de nouvelles, je peux laisser cela à d'autres. Nous sommes tous calmes et paisibles ici. Ainsi, avec mon amour vrai et affectueux pour toi, je conclus et demeure ton ami John Bunyan Dublin, le 29e du 4e mois, 1686. Bien que le monde soit plein de tumulte, d'inquiétude et d'effroi, pourtant béni soit le Dieu de notre salut, qui nous a conduits dans un certain degré de repos que les détresses d'en bas ne peuvent atteindre, de sorte qu'il est quelque chose de connu ou se retirer comme dans un sanctuaire que le monde ne connaît pas et le destructeur ne peut y entrer. Ainsi, notre sécurité consiste toujours à conserver notre part en cela, afin d'avoir notre privilège d'y demeurer, et de nous reposer au temps de la trouble, là où nul ravisseur ni destructeur ne peut venir. La puissance du Seigneur est à admirer, aimer et croire à jamais, lui qui nous donne des saisons bénies, des accalmies et de la tranquillité. Il est vrai pour toujours, les vents et les mers doivent lui obéir, béni soient tous ceux qui mettent leur confiance en lui. La crainte et l'agitation possèdent le cœur de beaucoup. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons l'œil tourné vers le Seigneur, et nous savons qu'il a la main à l'ordre des choses, ou qu'il permet toutes choses pour des fins qu'il connaît le mieux, et nous nous y reposons. Je désire que le Seigneur, par le séjour de sa puissance dans nos âmes, continue ainsi de nous garder et de nous préserver dans cette simplicité et cette sincérité selon Dieu, par lesquelles nous pouvons toujours nous reconnaître, et être un réconfort les uns pour les autres, dans la franchise et la simplicité de cette vérité bénie, qui sauve et sanctifie de toute injustice, unie à Dieu, et conduit à une proche communion les uns avec les autres. Car c'est cela qui sanctifie, dispose et prépare le cœur de l'homme à toute bonne vertu, et apaise et compose sa nature, non seulement en vue des miséricordes célestes, afin qu'il puisse les recevoir et en jouir, mais aussi pour sa condition en ce monde et pour la jouissance des faveurs temporelles, afin qu'il les reçoive et en jouisse avec bénédiction et en véritable consolation, et qu'il soit aussi une bénédiction et un réconfort, en sa place, pour tous ceux qui y sont concernés. Telle est la félicité et l'avantage dont on peut être témoin par l'action et la demeure de cette puissance éternelle que Dieu Tout-Puissant a révélée dans les cœurs de son peuple en ce jour, lorsqu'on y prête fidèlement attention et qu'on s'y soumet dans le véritable amour d'elle. Et assurément, nombreux sont ceux qui, s'ils en connaissaient les effets consolants, ne demeureraient pas sous sa condamnation comme ils le font. Mais il en est comme il fut dit autrefois, ils ne croiront pas, quand bien même un homme le leur raconterait. Dublin, le 6e du 11e mois, 1688. La nouvelle de la mort de ma chère épouse vous sera parvenue avant ceci, ce qui n'est pas une petite épreuve pour moi. Mais si ma perte est grande, en ce qu'elle m'a été enlevée, je crois pourtant que c'est son gain. Car elle a longtemps été sous une grande faiblesse et une grande épreuve de corps. Toutefois, je puis dire ceci, elle supporta son épreuve au-delà de toute attente, et elle dit à quelques amis qu'elle croyait être gardée plus longtemps, parce que j'étais si peu disposée à la laisser partir. Je dois avouer que c'était dur, et que cela ne pouvait pas être facilement accepté, et ce pour plusieurs raisons, mais quand je vis que cela devait être, je fus rendu consentant car ces épreuves prirent mon esprit. Le matin du jour où elle partit, elle me dit qu'elle craignait que son passage ne fût difficile. Je lui dis que j'espérais que non. Elle était dans de grandes douleurs, mais les supporta avec une tranquillité merveilleuse et y demeura comme quelqu'un qui attend la délivrance et me parla avec beaucoup de sensibilité un peu avant son départ. Ainsi elle s'en alla comme un agneau, sans même un gémissement. Nous avons vécu agréablement ensemble, sa nature était bonne, aimable et courtoise, elle était compatissante, très attentive et d'un bon entendement. Elle manquera beaucoup en ce lieu, car les amis avaient pour elle un bon amour et une grande estime, et je sais par expérience que beaucoup qui semblent surpassés par l'apparence viendront de beaucoup en arrière. Dublin, le 7e du 12e mois. Nous sommes assez tranquilles ici en ce moment, mais le cœur des gens est comme des eaux agitées, sans appui ni stabilité, ne sachant quel chemin prendre pour être satisfait ou être tranquille dans leur esprit. Seuls ceux qui connaissent la vérité peuvent s'y reposer et être tranquilles, sous sa couverture, autrement ce serait extrêmement pénible. J'avais l'intention d'aller dans le Cumberland, mais pour l'instant les amis ne pouvaient guère supporter mon départ, et je n'ai pas non plus de liberté en moi-même, ainsi je reste à ma place, attendant le temps et la saison pour cela. Dublin, le 13e du 3e mois, 1689. Notre réunion semestrielle est terminée, de nombreux amis et frères de bien des régions du pays s'y sont assemblés selon notre usage. Nous jouissons généralement de nos réunions, dans tout le pays, paisiblement et tranquillement, et dans la plupart des lieux, nos réunions sont grandes, et beaucoup de personnes y viennent, et tout le peuple à présent a sa liberté dans le libre exercice de sa conscience en matière de religion. Quant aux amis et à la vérité, ils sont en bonne estime, tant auprès des grands que des petits. Le soin et la miséricorde du Seigneur envers nous se sont largement manifestés, et les amis acquièrent une grande expérience de la préservation par le bras puissant du Seigneur en ce grand jour d'épreuve qui est sur ce pays. Pourtant, pour notre joie et notre consolation, les amis sont portés au-dessus de cela dans la foi du Fils de Dieu et ont été miraculeusement préservés, au-delà même de notre attente, en plusieurs lieux où leurs épreuves ont été très grandes et où les dangers, en apparence, étaient effroyables. Pourtant les amis sont demeurés dans leurs habitations, se confiant au Seigneur et poursuivant leurs occupations et affaires légitimes. À cette réunion semestrielle, nos cœurs furent plus que d'ordinaire réjouis de voir les visages les uns des autres en un temps tel que celui-ci, et la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, ce qui couronne nos réunions. Dans le sentiment et la douceur de cette même présence, la plupart de nos amis et frères sont aujourd'hui repartis vers leurs demeures extérieures, dans la paix de Dieu, et dans un grand amour et une grande unité, qui ont précieusement abondé parmi nous dans cette réunion, à travers toutes nos préoccupations et nos affaires. Le 4e jour prochain, j'ai l'intention d'aller à la campagne vers notre réunion provinciale, et je pense visiter les amis avant de revenir, Oxford, le 5e mois. J'ai fait un voyage très réconfortant parmi les amis, et pour la plupart des réunions très nombreuses, au-delà de mon attente, et très paisibles, à savoir, le 3e jour à Tipperary, et le 4e jour chez John Fennell. Mais à Tipperary, j'ai bien failli être volé par les Rapparees astérisques et perdre ma jument, toutefois je me suis dégagé et j'ai échappé, et je suis rentré à cheval dans la ville. Dimanche dernier, nous avons eu une très grande réunion chez Edward Gooding, c'était leur réunion mensuelle. Aujourd'hui, nous avons une réunion ici, demain chez Samuel Watson, et le 5e jour, à la réunion qui dépend de Lamptown. Je pense que la réunion mensuelle de Callow a lieu dimanche prochain, j'ai donc l'intention d'y être. Astérisque les Rapparees étaient des partisans irlandais catholiques jacobites, soutenant le retour de Jacques Yi avec l'armée française, dans une tentative de reprendre la couronne d'Angleterre, perdue au profit de Guillaume et Marie. Ces combattants de guérilla devinrent plus tard des bandits et des brigands de grand chemin. On les appelait Rapparees parce qu'ils utilisaient une courte arme de type pique, appelée un Rapparee. Dublin, le 12e du 8e mois. Amis, autant que je puisse en rendre compte, sont généralement assez bien portants et libres, et nos réunions sont calmes et paisibles, et il en est de même des autres, autant que je sache. Mais beaucoup, à la campagne, souffrent quant à la perte de leurs biens, du fait des guerres dont ce pays est grandement affligé. Cependant, l'œil de nos amis est tourné vers le Seigneur, qui sans doute ne permet pas que toutes ces choses arrivent sans cause, mais comme un châtiment pour la perversité des enfants des hommes. Si tous prenaient avertissement pour se tenir loin de ce qui le provoque au déplaisir, afin que sa main soit retirée. En vérité, ce qui est notre consolation et notre soutien au milieu de tout, c'est la sainte présence de sa puissance qui accompagne nos réunions, et par l'évidence de celle-ci, nous recevons la satisfaction que le Seigneur est content de nous. C'est ce qui soutient nos esprits au temps de l'épreuve. Dublin, le 25e du premier mois 1690. J'ai eu l'occasion l'hiver dernier d'aller parmi les amis à travers le Leinster et le Munster, ce qui fut une grande satisfaction pour eux comme pour moi. Les amis se portent généralement bien, et nos réunions sont pleines, et nous en jouissons tranquillement comme autrefois. La présence du Seigneur est avec nous pour notre grande consolation, et elle est tenue pour une grande miséricorde par tous ceux qui en ont un juste sentiment. Dublin, le 21e du 6e mois. J'ai visité les amis du Nord, et j'ai eu parmi eux un temps agréable et réconfortant, et je les ai trouvés très joyeux. Il est toujours à déplorer que le péché et la méchanceté abondent ainsi, mais le Seigneur, sans doute, plaidera avec tous ceux qui l'attristent, en son propre temps et à sa manière, bien qu'il soit longanime. C'est pourquoi notre bonheur sera de demeurer en repos sous sa main disposante et ordonnatrice par laquelle, en sa sagesse et sa puissance, il dominera sur tous les hommes et toutes choses, lui qui sait mieux que quiconque comment exécuter justice et jugement sur tous, selon leurs œuvres ou leurs mérites. Car devant lui toutes choses sont nues et découvertes, de sorte qu'il ne peut se tromper dans le jugement. Nous reposant ici, et l'attendant, cela apaise nos esprits et les adoucit, et je puis aussi dire que cela rend beaucoup de choses amères douces, et si sanctifiées, que nous trouvons de la consolation dans la tribulation. Bien qu'il nous soit naturel et licite, dans l'affliction, de prier avec révérence et de désirer la délivrance, et aussi, lorsqu'elle est obtenue, de nous en réjouir et d'en bénir le Seigneur, pourtant notre bonheur consiste encore à considérer ses providences et le sage ordre de toutes choses, et à en être content, sans murmurer contre ce qu'il juge bon d'accomplir, ni lutter contre cela. Ainsi nous reposerons tous dans un même bercail et une même alliance, et nous paîtrons ensemble dans un même pâturage, et nous aurons ainsi une sympathie commune pour la joie ou les souffrances les uns des autres. Car notre lieu de repos n'est qu'un dans la vérité, et notre salut y demeure pour toujours, et c'est pourquoi nous n'avons besoin de regarder à aucun autre. John Bunyit, le témoignage des amis du Cumberland concernant ce fidèle serviteur du Seigneur, John Bunyit, autrefois membre de la réunion de Partsey, dans le Cumberland. Il naquit à Crabtreebeck dans la paroisse de Lowswater, dans le dit comté, ses parents étaient de bonne renommée, et son éducation fut conforme à sa naissance. Le Seigneur le visita dans ses années jeunes et tendres, et inclina son cœur vers les bonnes choses, sur quoi il se donna à la lecture des Écritures, afin d'être instruit de ce qui faisait la paix de son âme. Et allant d'un homme à un autre, qui passait pour des hommes d'expérience, il ne trouva pourtant aucune vraie satisfaction, jusqu'à ce qu'il plût au Seigneur d'envoyer ses ministres, pour tourner son esprit vers la parole invisible de vie, qu'il reçut avec joie dans son cœur, et vint attendre dans l'humiliation pour en sentir l'opération. Ainsi il fut amené au jour, dès le commencement de l'éclat de la lumière et de la puissance de Dieu en notre temps, lorsqu'il plut à Dieu de visiter beaucoup de personnes en de nombreuses nations du monde, et de faire connaître sa vérité éternelle dans les contrées du Nord, jour de lumière, de vérité et de grâce que beaucoup attendaient, et pour lequel ils étaient prêts à recevoir avec joie et allégresse de cœur. Parmi eux notre cher ami John Bunyit, étant appelé par la grâce à la connaissance du Seigneur, de sa vérité et de sa puissance, et recevant cela dans l'amour, la foi et l'obéissance, vint témoigner de l'action efficace de cette puissance pour sa sanctification, et devint ainsi un vase d'honneur, propre à l'usage de son Maître le Christ. Et il apprit à bien gouverner sa propre maison, lavant d'abord l'intérieur, et alors l'extérieur paraissait aussi net. Alors sa lumière commença à briller devant les hommes, à la gloire de Dieu qui l'avait appelé. Ceci ayant d'abord été accompli en lui et pour lui, pour sa paix particulière et sa satisfaction dans la vérité éternelle du Seigneur, alors le Seigneur ouvrit sa bouche en peu de mots, avec beaucoup de tendresse, ce qui contribua grandement à la consolation de son peuple. Il avait toujours soin d'attendre le mouvement de la parole et de demeurer tout près d'elle, par quoi il grandit dans son don et fut poussé à visiter les amis de ce comté où nous l'aimions tendrement. Il fut fidèle, dans l'accomplissement de son devoir, lorsqu'il fut appelé à rendre témoignage contre les prêtres mercenaires dans les maisons à clocher, afin de détourner le peuple de la bouche de ces bergers avides qui se pèsent eux-mêmes et non le troupeau, et qui ne profitaient en rien au peuple. Et pour ces choses, il souffrit un long emprisonnement sous un geôlier sévère, dans un lieu clos et infect. Car le Seigneur l'envoya au dehors, dans sa puissance et son esprit d'ouverture joyeuse, pour prêcher la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ, parfois aux esprits en prison, et à ceux qui sortaient de prison et entraient dans la glorieuse liberté des fils de Dieu, et à ceux qui marchaient fermement dans cette liberté glorieuse et pure, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende par quoi il fut un instrument béni dans la main du Seigneur, tant pour convaincre et convertir à Dieu que pour rafraîchir, consoler et fortifier les fidèles. C'était un homme d'un excellent esprit et d'une profonde expérience des choses de Dieu et des mystères de son royaume qui lui furent richement manifestés, et il prenait plaisir à les méditer, par quoi son expérience augmenta chaque jour jusqu'au terme de sa vie. C'était un homme sensible à la gloire de Dieu, et il cherchait ardemment la diffusion et la propagation de la vérité. Le Seigneur rendit ses voyages fructueux, et il vit le fruit de son labeur, et le Seigneur le bénit des fruits de son Saint-Esprit, par lesquels il devint bien qualifié pour l'œuvre du ministère, un père nourricier, prêtant main forte aux faibles du troupeau et consolant ceux qui pleurent en Sion, car sa doctrine distillait comme la rosée, et sa parole comme une pluie fine. Il était un modèle de justice pour la jeune génération, à l'égard de laquelle il était très tendre, et il pouvait donner conseil aux anciens, de sorte que Dieu fit de lui une forte colonne dans son Église, et le revêtit de sagesse divine, le rendant capable de dire à chacun une parole en son temps, qui était comme un clou enfoncé en un lieu sûr. Il fut l'un des vaillants du Seigneur en son temps, d'une vue vive et d'un discernement clair, d'un bras solide et d'une main habile, dont l'arc demeurait en force et portait les flèches au but visé, comme les hommes de Benjamin, qui pouvaient lancer des pierres à un cheveu près, ainsi il faisait tomber le jugement sur la tête du transgresseur. Ces flèches ne revenaient pas en vain, particulièrement contre cet esprit méchant de séparation, partout où il le rencontrait. Il fut souvent préoccupé de rendre témoignage contre ceux qui professaient la vérité et la voix de Dieu, et qui pourtant inclinaient à se conformer aux modes et coutumes vaines du monde, comme autant d'entrées pour un mauvais esprit, et ils devenaient de mauvais précédents pour les autres, surtout pour les jeunes gens, qui occupent trop leurs pensées de vêtements et de modes frivoles, n'ayant jamais connu l'œuvre pesante de la vérité et la puissance de Dieu dans leur cœur pour y opérer un changement, mais étant trop portés à regarder les autres. Contre ces choses, il témoignait souvent, comme ayant autorité, lui-même ayant été racheté de ces choses par la puissance de Dieu. Son comportement innocent et sa conduite irréprochable prêchaient partout où il venait. Gravité et patience l'accompagnaient, modération dans la nourriture, la boisson et l'habillement ayant mis de côté toute superfluité de malice et reçu avec douceur la parole implantée. Tout cela était comme des ornements sur lui, et prêchait abondamment pour la vérité, de même que les nombreux témoignages vivants qu'il rendait, qui coulaient à travers lui comme des averses sur l'herbe tendre. C'était un véritable ouvrier, qui n'épargna pas sa vie jusqu'à la mort, et qui était prêt à dépenser et à être dépensé, afin de gagner les fils et les filles des hommes, pour les tourner des ténèbres vers la vraie lumière, et de la puissance de Satan vers Dieu. Oh, que dirons-nous de lui ? Il était un fidèle prédicateur de l'Évangile, non seulement en parole, mais en vie et en pratique, et sa mémoire vivra à jamais. Car son labeur et ses voyages, tant au pays qu'au dehors, en prison et en liberté, ont été tels qu'ils ne peuvent aisément être oubliés par beaucoup, qui en ont recueilli le bénéfice. Car le Seigneur daigna merveilleusement paraître par lui, et retentir au travers de lui, pour éveiller beaucoup à la justice, et encourager grandement tous les fidèles parmi le peuple de Dieu. Dans les exercices profonds, il était comme un médecin habile, pour appliquer ce qui convenait à chacun, oui, il était prompt et tranchant d'un côté pour sonder, et de l'autre pour guérir, soigner, penser et consoler, mais pour les hypocrites il était redoutable et terrible, bien qu'il fût un homme d'une grande compassion. Il parcourut bien des sentiers non frayés, et traversa de grands dangers par mer et par terre en visitant les amis, non seulement en Angleterre, mais aussi en Écosse, en Irlande, à la Barbade, en Nouvelle-Angleterre, avec les îles adjacentes, passant par des lieux sauvages et des eaux dangereuses. En tout cela, le Seigneur le préserva d'une manière très merveilleuse, avec le reste de ses serviteurs, des mains d'hommes méchants et déraisonnables, et fut toujours près de lui pour sa conservation, tant intérieure qu'extérieure. Le Seigneur le revêtit d'humilité devant tous, comme il convenait à l'Évangile qu'il prêchait gratuitement, ne tenant rien pour si proche ni si cher qu'il ne fût prêt à s'en séparer, à souffrir ou à faire, mais une volonté fut opérée en lui par la puissance puissante de Dieu, qui le fortifiait toujours pour faire, souffrir et endurer toute chose, quelle qu'elle soit, pour l'amour de son digne nom. Bien que le Seigneur lui eût accordé des dons éminents, il savait pourtant s'abaisser aux capacités faibles de tous pour atteindre le bien en chacun, afin d'y poser un fondement sur lequel bâtir. La parole de réconciliation lui fut confiée, par laquelle il fut rendu instrumental pour réconcilier beaucoup avec Dieu par Jésus-Christ et les uns avec les autres. Le Seigneur le fit triompher en Christ et manifesta l'odeur de sa connaissance en beaucoup de lieux, et son ministère est scellé dans le cœur de beaucoup, qui sont assurés de sa fidélité envers Dieu, qu'il a reçu dans son repos. Maintenant, bien que son corps soit retourné à la poussière, son esprit vit, et cette parole de vie qui faisait sa joie demeure pour notre consolation, à nous qui sommes encore en arrière dans ce pèlerinage qu'il a traversé, et qui peut être accompagné des tentations dont il est délivré, lui qui a achevé l'œuvre de son jour, lui que le Seigneur suscita pour briller comme une étoile en plusieurs régions du monde du nord et de l'ouest. Son maintien doux et grave convenait si bien à son ministère réfléchi, qu'il élevait grandement son estime parmi ses voisins, de sorte qu'il n'était pas sans honneur dans son propre pays. Chaque fois qu'il venait dans le Cumberland, où il était né et avait été élevé, ses voisins affluaient abondamment à la réunion pour l'entendre. Pourtant, il était loin de se glorifier de son don ou de vouloir être populaire, mais il retenait plutôt ceux qui voulaient l'applaudir, n'accordant à soi-même aucune considération. Il peut véritablement être compté parmi les justes, qui recherchèrent la gloire de Dieu et la paix et l'unité, la floraison et la prospérité de son Église dont Christ est le chef. Nous pourrions dire bien davantage à son sujet, mais nous n'attribuerons rien à lui, sinon à la puissance du Seigneur qui l'a soutenu. Or, si Samuel eut sujet de pleurer Saül, et si les enfants d'Israël pleurèrent 30 jours Moïse, beaucoup ont maintenant sujet de pleurer la perte d'un si cher ami. Mais si notre perte est grande, son gain dépasse tout ce qu'on peut dire, il a reçu la bienheureuse récompense de rétribution pour ses labeurs et ses voyages, pour tout son service et ses souffrances. Ayant achevé sa course et son temps dans ce monde, il est entré dans la vie et le bonheur éternel dans le monde à venir. Nous prions le Seigneur de la moisson de susciter d'autres ouvriers à sa place, ainsi qu'à la place d'autres qui ont achevé leur témoignage pour Dieu et Christ, afin que Dieu, par-dessus tout, par Jésus-Christ, reçoive l'honneur, la gloire et la louange, de génération en génération, lui qui est béni à jamais. Amen. Remarque l'homme parfait, et considère l'homme droit, car la fin de cet homme est la paix. Psaume 37:37. Philip Bunyan, Richard Red, John Tiffin, Christopher Story, John Banks, Peter Fearon, Thomas Leys, Jonathan Bowman, Thomas Dockery, John Boasted, Christopher Wilson, Thomas Fletcher, James Dickinson. Broughton, dans le Cumberland, le 22 jour du deuxième mois, 1691, le témoignage de plusieurs amis en Cumberland. Dans le brisement de cœur et la tendresse de nos esprits, nous rendons ce témoignage concernant notre cher ami et frère John Bunyan. Il fut l'un des vaillants du Seigneur, choisi et préparé par lui pour son œuvre et son service, et toute sa joie était de faire la volonté de Dieu. Ainsi vint-il de plus en plus à connaître sa doctrine, par laquelle il devint un bon instrument dans la main de Dieu pour convertir beaucoup de l'erreur de leur voie à la voie de la vérité et de la justice. Il fut de ceux en qui cette prophétie s'accomplit, des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à l'Éternel. Car il savait bien partager droitement la parole de Dieu, qui habitait abondamment en lui comme des eaux profondes, et la source de la sagesse comme un ruisseau qui coule, de sorte qu'il était souvent comme un nuage plein de pluie, se répandant sur l'ordre du Seigneur, faisant germer la semence de vie, par quoi l'héritage de Dieu fut affermi. Il était un homme entre mille, revêtu d'innocence et embelli d'humilité, les mots sont trop courts pour exposer l'excellence de cet esprit par lequel il était conduit, et nous ne pouvons non plus exprimer pleinement ce qu'il y a dans nos cœurs à son sujet. Pourtant, nous ne lui attribuerons rien, mais à la puissance du Seigneur, qui agissait efficacement en lui pour le faire resplendir. Car il fut un instrument de bien pour beaucoup, faisant la différence, sauvant certains avec crainte, les arrachant du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair, étant trouvé dans cette religion pure et sans tache qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à se garder sans tache du monde, et par conséquent, il savait sauver sur le mont Sion et juger sur le mont Ésaü. On pourrait écrire beaucoup à son sujet, car nous savons que le désir même de son cœur et l'inclination de son esprit était que Dieu, par son Fils, règne dans la maison de Jacob, et que le royaume soit au Seigneur. Il abhorrait l'apparence de rassembler à soi, et n'avait de lui-même aucune réputation. C'est pourquoi le Seigneur l'honora de sa présence divine et rendit sa compagnie, bien que redoutable pour les rétrogrades, pourtant très désirable pour beaucoup, surtout pour ceux qui connaissaient son intégrité et son zèle pour l'exaltation du nom et de la vérité de Dieu, dans le cœur desquels il était hautement estimé à cause de ses œuvres, qui le suivent bien qu'il soit en repos de son labeur, étant parvenu au port qu'il désirait, où les méchants cessent de tourments. Là, les prisonniers reposent ensemble, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur, car l'accusateur des frères est précipité, les tentations ne peuvent entrer, une victoire est connue par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, eux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. À celui qui vaincra, dit Christ Jésus, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, Il ne sera pas atteint par la seconde mort, mais avec Abraham, Isaac et Jacob, et avec tous les fidèles dans le royaume de Dieu, sans cesse il chantera des louanges à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, au siècle des siècles, lui qui en est digne. Oh, quelle grande perte nous avons en lui! Comment ne pas nous lamenter? Pourtant, c'est pour lui un gain éternel, car il ne reviendra jamais vers nous, mais nous pouvons aller à lui. Cette parole de vie, dans laquelle sa vie était cachée, demeure cependant pour notre soutien. Et si nous prenons soin de nous y tenir, elle nous préservera, comme elle l'a fait pour lui, afin d'entrer dans cette demeure de gloire que le Seigneur réserve à tous les fidèles. Il nous était cher dans le Seigneur, avec qui nos âmes étaient liées dans l'alliance éternelle de Dieu, et bien que son corps soit retourné à la poussière, nos âmes se réjouissent avec beaucoup d'autres, parce que nous jouissons de son esprit et sommes parvenus à l'Assemblée générale et à l'Église des premiers-nés, à Dieu juge de tous, aux esprits des justes rendus parfaits, à Jésus médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui dit de meilleur chaud que celui d'Abel, notre joie pleine, et où nos esprits sont courbés et soumis à la volonté. Les pas de l'homme de bien sont affermis par le Seigneur quand il prend plaisir à sa voix. PS 37:23. Et ceux qui seront sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Dan 12:3. Margaret Fawcett, Mary Wilson, Jane Wilson, Mary Bowman, Margaret Head, Sarah Fallowfield, Jane Roll. Broughton dans le Cumberland, le 22 jour du deuxième mois, 1691. Un témoignage de plusieurs amis en Irlande, auxquels leur cœur a donné naissance et qu'ils ont publié au nom de notre cher frère John Bunyit. Quant à notre cher ami et digne frère dans le Seigneur, John Bunyit, jadis de Dublin décédé que certains d'entre nous ont connu de longues années, nous rendons à son sujet ce témoignage dans la vérité, à savoir qu'il est demeuré ferme dans l'œuvre du Seigneur, ministre capable de l'Évangile et fidèle ouvrier, qui avait une parole de saison pour servir les diverses conditions des amis et du peuple, partageant droitement la parole, fortifiant les faibles et nourrissant librement les agneaux et les brebis du Christ de la nourriture qu'il. Son témoignage, en faveur de la puissance de la vérité et de la justice, était clair, et beaucoup furent convaincus par lui. Sa conduite était si céleste et si conforme aux principes de vérité qu'il prêchait, que nous ne connaissons personne qui puisse, à juste titre, l'accuser de quoi que ce soit qui aurait pu ternir sa profession ou son ministère. C'était un homme remarquablement bien qualifié pour l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé, le Seigneur l'ayant revêtu d'une grande mesure de son esprit. Il eut de grandes ouvertures et découvertes des mystères du royaume de Dieu. Il avait aussi la langue des savants et était préparé pour toute bonne parole et toute bonne œuvre auxquelles le Seigneur l'employait. Ses qualités surpassaient celles de beaucoup, et quoique petit en lui-même, il était cependant dans le Seigneur un homme puissant et vaillant. En tout temps de souffrance et d'épreuve, il ne manqua pas d'être en première ligne, il était un vaillant en Israël et un pilier dans la maison de Dieu. Il compatissait aux affligés, recherchant le bien d'autrui, et par-dessus tout, l'honneur et la prospérité de la vérité étaient devant ses yeux. Quand il prit femme parmi nous, avec quel soin et quelle circonspection veillait-il à l'honneur de la vérité, ainsi qu'à la concorde et à l'unité des amis et des frères. Là où il venait parmi les amis, il ne restait pas oisif, mais visitait souvent les malades et réconfortait ceux qui étaient dans la détresse ou l'affliction. Car, en vérité, il était un véritable serviteur pour tous les amis intègres, tant les pauvres que les riches, et il administrait volontiers de ses biens temporels à ceux qui en avaient besoin. Il était doux et humble, doté d'un esprit qui guérit, et ce fut l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous dans cette nation, et particulièrement dans cette ville de Dublin, d'ordonner qu'il demeura et s'établit parmi nous. Par lui, beaucoup furent convaincus de la vérité et détournés du mal de leur voie, et la paix de l'Église, l'unité et la communion des amis s'accrurent. Il était l'un des archers d'Israël, qui pouvait tirer à la largeur d'un cheveu, pour blesser le cuir chevelu velu du méchant et réduire au silence les ennemis du Seigneur. Il était un messager de bonnes nouvelles et nous dirigea vers la bienheureuse lumière que Dieu avait fait briller dans nos cœurs lorsque nous y étions étrangers. Oui, alors elle se manifesta comme un témoin pour le Seigneur contre toutes les pratiques impies. Ce fut un jour de bonnes nouvelles pour beaucoup, quand le Seigneur fit de lui l'une de ses trompettes pour nous, afin de faire retentir son évangile jusqu'au témoin de Dieu dans nos cœurs. Oh, que cela ne soit oublié par aucun de nous qui avons été tournés vers Dieu. Il avait un véritable amour pour tous les amis au cœur tendre et voyagea pour leur croissance et leur prospérité dans la bienheureuse vérité, non seulement dans ces trois nations, mais aussi dans les îles occidentales et en Amérique, pour amener beaucoup à la bienheureuse voie de la vie et du salut, comme les récits l'attestent. Il était un véritable modèle de piété et de dévotion, par une conduite humble, douce et inoffensive, apte à enseigner, prêt à donner des conseils et des instructions célestes, un bon exemple en toutes choses. Il arrivait tôt aux réunions et y attendait avec assiduité. Bien des fois, il restait assez longtemps en silence, n'étant pas empressé de parler, attendant avec révérence l'ouverture de la vie céleste, comme le bon maître de maison dont il est parlé, pour tirer de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Il avait une profonde expérience de l'œuvre et du service du Seigneur et fut un grand réconfort et un soutien pour beaucoup dans leurs grandes souffrances et leurs rudes épreuves, et il fortifia et encouragea puissamment les amis dans leurs différents lieux de résidence. Deux fois, durant les récents troubles, il visita les amis en Munster et dans cette province de l'Inster, envers lesquels il se montra très ouvert, et il eut de grandes réunions, car en beaucoup d'endroits les enseignants du monde avaient fui et abandonné leurs troupeaux. Bien des fois, dans les réunions publiques, il porta un témoignage fidèle, simple et clair contre la superstition et l'idolâtrie, et contre cet esprit relâché, méchant, blasphématoire et impur, auquel beaucoup s'étaient abandonnés pour se laisser conduire. Dès que le chemin fut ouvert vers le nord, il visita les amis là-bas. Or, après la mort de sa femme, il eut quelque intention d'aller en Angleterre et y envoya son fils, mais voyant venir les troubles de la guerre, et que de nombreuses afflictions et épreuves nous accompagneraient, et que beaucoup de gens saisis de grandes craintes fuyaient vers l'Angleterre, alors même que beaucoup de témoignages parvenaient des amis de diverses réunions, pour que tous se souviennent de la puissance de préservation du Seigneur, et ne laissent pas les peurs s'emparer de comme elles le faisaient de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Notre cher ami, bien qu'il en eût l'occasion, n'eut pas la liberté d'aller en Angleterre, mais il se donna pour rester avec les amis ici et prendre sa part des souffrances qui pourraient nous atteindre. En ce temps-là, il fut un précieux instrument dans la main du Seigneur pour réconforter son peuple au milieu de grandes afflictions et calamités, car il nous encourageait avec joie. Il fut un cher ami, un vrai frère, un surveillant diligent et un père tendre, un homme intègre et droit en son temps, qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Bien qu'il cherchât le salut de tous, il ne pouvait supporter les hommes trompeurs et les mauvais ouvriers qui professaient la vérité tout en la déshonorant, contre eux il avait une juste indignation et un zèle selon Dieu. Le souvenir de sa sollicitude paternelle sur l'héritage de Dieu, à maintenir toutes choses en bon ordre, ne doit pas être oublié, car il se souciait grandement que ceux qui professaient la vérité marchassent en accord avec elle, dans une vie chaste et une conduite irréprochable. Dans tous ses voyages, dans quelques maisons qu'il entra, il se contentait de ce qu'on mettait devant lui, si petit que ce qui fut une grande satisfaction pour beaucoup d'amis pauvres et honnêtes, parmi lesquels son sort était tombé. Il n'usurpait pas l'autorité sur ses frères, mais était d'un esprit qui guérit et d'une nature d'agneau, et jouissait d'une bonne réputation dans tous ses voyages. Notre cher ami et frère prenait grand plaisir à lire les Saintes Écritures, et il conseillait souvent, avec grande insistance, aux amis de les lire fréquemment, et plus particulièrement aux jeunes et à ceux d'un âge encore tendre, ainsi que les livres des amis, où les principes de la vérité étaient exposés, afin que nul ne soit ignorant des principes de la vraie religion chrétienne, maintenant de nouveau prêchée et clairement proclamée. Il se trouvait à notre réunion provinciale à Rosnally, peu avant son décès, où il porta parmi les amis un témoignage vivant et frais, à notre grand réconfort, et exhorta les amis à la fidélité. De là, il alla à Montrose et y tint une réunion, puis à Ballinacle et y tint une réunion. Il vint ainsi à la réunion mensuelle de New Garden, où beaucoup l'entendirent porter un témoignage vivant et doux, dans l'ouverture de la parole de vie pour le rafraîchissement de leurs âmes. Après la réunion, il rentra chez notre ami John Watson, dans sa maison, et se sentant indisposé, il se mit au lit, fut atteint d'une fièvre et demeura malade l'espace de 12 jours. Pendant ce temps, il fut conservé dans ses sens et dans une douce disposition d'esprit, et il disait souvent qu'il se trouvait fort à l'aise et tranquille en son esprit. Le Seigneur l'assista de sa puissance et de sa présence céleste, pour son réconfort et notre grande satisfaction. Il dit à John Watson qu'il avait toujours aimé le Seigneur, et que le Seigneur l'avait aimé dès sa jeunesse, et qu'il sentait son amour. Il fut merveilleusement conservé dans un état sensible jusqu'à la fin, et le 11 jour du 7e mois, 1690, vers 2 heures de l'après-midi, il quitta cette vie doucement et paisiblement, dans environ la 59e année de son âge, et il est allé à son repos avec le Seigneur, et ses œuvres le suivent. Comme il avait honoré le Seigneur en son temps, il fut aussi honoré par la compagnie de nombreux anciens amis venus de diverses parties de notre province, pour l'accompagner jusqu'à sa tombe à New Garden, où il fut convenablement enseveli le 14 jour du même mois, et là nous eûmes une bonne réunion, à la grande satisfaction de beaucoup d'amis et d'autres personnes. Maintenant, assurément, si David fit bien de s'affliger pour Absalom, nous avons raison de déplorer grandement la perte d'un ami si cher, si tendre et d'un cœur si droit, dont le labeur et le voyage furent grands, tant du corps que de l'esprit, afin de servir fidèlement le Seigneur, son Église et son peuple, d'exalter son glorieux nom et de propager sa vérité vivante sur la terre, et de préserver l'unité et la paix dans les Églises de Christ. Mais croyant que c'est la volonté du Seigneur qui s'est accomplie à son sujet, dans une résignation sainte et révérente et une soumission à cela, nous devons nous contenter, sachant que c'est pour lui un gain ineffable d'être absent du corps et présent auprès de Christ. Ainsi, chers amis, nous qui demeurons encore voyons comment le Seigneur a plu de retirer d'entre nous beaucoup de nos anciens amis et de fidèles ouvriers dans l'Évangile de paix, qui ont été utiles en ce temps pour rassembler et affermir beaucoup dans la vérité, afin que nous y marchions. Amis, nous qui restons, sommes d'autant plus directement concernés de travailler dans le don céleste sa grâce divine, que le Seigneur nous a conféré dans son amour, afin qu'en ce jour de l'Évangile nous nous élevions pour succéder à ceux qui nous ont précédés dans leur repos au Seigneur, en portant un témoignage fidèle à la bienheureuse vérité, que notre mémoire vive pour les âges à venir, comme celle de notre cher ami et frère Enévi parmi le peuple de Dieu jusqu'à ce jour, lui qui, ayant fidèlement achevé sa course ici dans une grande. Amen. Anthony Sharp, John Watson, Roger Robert, Henry Hillary Amos Trettel, John Rox, daté à Dublin, le 22 au jour du deuxième mois, 1691. Aux dirigeants, ministres et habitants de l'île de la Barbade, qui voient et remarquent, en quelque mesure, la main du Seigneur qui est sur eux et qui désire que ses jugements soient retirés. Écrit à la Barbade, vers le 29 au jour du 11e mois, 1670, à l'occasion d'un jeûne que le peuple de l'île prétendait observer, à cause d'une grande maladie qui était sur eux, dont beaucoup moururent, de laquelle mon compagnon William Simpson mourut alors. Amis, c'est le péché qui provoque le Seigneur et fait venir sur une nation, un peuple ou un particulier ses jugements dans sa colère, car c'est cela que le Seigneur visite de sa verge et frappe bien des fois de ses terribles jugements. Tant que l'on vit dans le péché, le Seigneur n'écoute pas, quand bien même l'homme crierait et ferait de nombreuses prières, comme vous pouvez le voir dans les Écritures de vérité. Lisez Ésaïe, chapitre 1, et voyez ce que le Seigneur dit à Israël lorsqu'il s'était révolté et était devenu une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité. Bien qu'ils offrissent des sacrifices et des holocaustes, qu'ils convoquassent des assemblées, qu'ils observassent les nouvelles lunes et les fêtes fixées, le prophète les appela les chefs de Sodome et dit « Écoutez la parole du Seigneur, vous chefs de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, vous peuple de Gomorre, à quoi me sert la multitude de vos sacrifices ?» dit le Seigneur. Et il leur dit encore que, quand bien même ils étendraient leurs mains, ils détourneraient ses yeux d'eux et quand ils multiplieraient les prières, ils ne les écouteraient pas, leurs mains étaient pleines de sang. Et c'est pourquoi il leur commanda de se laver, de se purifier, d'ôter de devant ses yeux la méchanceté de leurs actions, de cesser de faire le mal et d'apprendre à faire le bien, de rechercher le jugement, de secourir l'opprimé, de faire droit à l'orphelin, de défendre la cause de la veuve, et alors venez, et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Ainsi vous pouvez voir ici que c'est la voie, cesser de faire le mal et apprendre à faire le bien, par quoi l'homme peut venir à connaître le Seigneur, et obtenir que ses prières soient entendues et ses requêtes exaucées, et que le jugement soit ainsi retiré. De même, le conseil de Daniel au roi fut qu'il rompît avec ses péchés par la justice, et avec ses iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, afin que sa tranquillité se prolongeât, Dan 4, 27. Dans toutes les Écritures de vérité, vous pouvez voir que le péché fut la cause pour laquelle le Seigneur s'irrita contre un peuple, et pour laquelle sa colère vint sur une nation, et que le Seigneur, quoiqu'il épargnât longtemps bien des fois, ne se réconciliait pas avec eux jusqu'à ce qu'ils obéissent à son appel en se détournant du mal de leur voie, et s'ils ne voulaient pas être détournés, à la fin il fit venir sur eux ses jugements pour les retrancher. Vous pouvez voir au sujet d'Israël bien des fois, tant dans le désert, où les incrédules et les désobéissants furent retranchés et périrent, qu'après être entrés dans le pays de la promesse, combien souvent à cause de leurs péchés, il fit venir sur eux ses jugements et la destruction, après les avoir avertis et par ses prophètes, leur avoir demandé d'abandonner leur méchanceté, d'apprendre à agir avec justice et de réformer leurs voies et leurs actions. Parce qu'ils ne voulurent pas écouter, mais persistèrent dans leurs péchés, le Seigneur fit venir sur eux ses terribles jugements, les rejeta, les retrancha et rendit le pays désolé, nonobstant la multitude de leurs sacrifices, de leurs prières et de leurs observances. Ainsi celui qui tuait un bœuf était comme s'il tuait un homme, celui qui sacrifiait un agneau comme s'il brisait la nuque d'un chien, celui qui offrait une oblation comme s'il offrait du sang de porc, et celui qui brûlait de l'encens comme s'il bénissait une idole. Et tout cela parce qu'ils avaient choisi leur propre voie et que leurs âmes prenaient plaisir à leurs abominations, comme vous pouvez le lire, Ésaïe 66, 3, 4. C'est pourquoi toutes leurs pratiques furent rejetées par le Seigneur, et il fit venir sur eux ce qu'ils craignaient, parce que lorsqu'il appelait, ils ne répondaient pas, lorsqu'il parlait, ils n'écoutaient pas, mais faisaient le mal devant ses yeux et choisissaient ce en quoi ils ne prenaient pas plaisir. Ainsi vous pouvez voir dans toute l'Écriture que ce n'est pas ce que les gens font, au titre du culte de Dieu, qui lui plaît en quoi que ce soit ou apaise sa colère, tant qu'ils font le mal devant lui et choisissent ce en quoi il ne prend pas plaisir, comme il est très évident dans les Écritures de vérité, par de nombreux témoignages en ce sens. Le temps manquerait pour tout mentionner, et ce qui fut écrit autrefois fut écrit pour notre instruction, afin que nous prenions avertissement par leur exemple, eux qui péchèrent et y persistèrent jusqu'à ce que le jour de miséricorde fût passé. Rome 15, 4, 1 Cor 10, 1, 11. Puisque le Seigneur vous a poussé à prendre note de ses jugements et de sa main sur le peuple de cette île, préparez vos cœurs à chercher le Seigneur selon sa voie. Et avant de prétendre vous approcher de celui qui est saint, ou de l'adorer ou d'offrir une offrande, ou de lui consacrer un jour, abandonnez vos péchés, ôtez de devant ses yeux le mal de vos actions, et apprenez à faire le bien, afin que vos prières soient entendues et que vous puissiez garder le jour saint pour le Seigneur. Observez le jeûne que le Seigneur a choisi, qui est de délier les liens de la méchanceté, de défaire les lourds fardeaux, de renvoyer libres les opprimés et de briser tout joug, de partager votre pain avec l'affamé, et d'accomplir de semblables œuvres de justice. Et alors le Seigneur a promis qu'à ceux-là, leur lumière jaillira comme l'aurore, leur guérison germera promptement, leur justice marchera devant eux, et la gloire du Seigneur sera leur récompense. Alors ils pourront crier, et le Seigneur répondra et dira « Me voici », quand on aura ôté du milieu de vous le joug, le doigt accusateur et les paroles de vanité, Ésaïe 58, 6, 10. Donc vos voix et vos actions, et que nul ne pense que le Seigneur est comme un homme, qui se satisferait de belles paroles ou de faux semblants, lorsque sa voix n'est pas écoutée et obéie, mais que l'on vit dans le péché, que l'on observe le jeûne que l'Écriture condamne, que le Seigneur n'a pas choisi, comme vous pouvez le lire, Ésaïe 58, 5, car vous pouvez y voir comment ce peuple cherchait chaque jour, et prenait plaisir à connaître ses voies, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas les ordonnances de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances de justice, dit le Seigneur, et ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu, puis ils s'écrièrent, « Pourquoi avons-nous jeûné, et tu ne le vois pas? Pourquoi avons-nous affligé nos âmes, et tu n'en as aucune connaissance ?» Le Seigneur en donne la raison, « Voici, dit-il, au jour de votre jeûne vous vous livrez à votre plaisir et vous pressez tous vos ouvriers. Voici, vous jeûnez pour crêler et disputer, et pour frapper du poing avec méchanceté, vous ne jeûnerez pas comme vous le faites aujourd'hui, pour faire entendre votre voix en haut, dit le Seigneur. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour où l'homme afflige son âme, courbe sa tête comme un roseau, et étend sous lui le sac et la cendre, appellerez-vous cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur, dit le prophète. Non, comme je l'ai montré auparavant, ce n'est pas cela, que chacun considère donc comment il est préparé à observer le jeûne que Dieu a choisi, afin que chacun qui y prétende en produise les fruits, autrement son cri ne sera pas entendu en haut, car le Seigneur connaît l'intention de chacun et prend garde à ses actions, si bien que ce n'est pas quiconque dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera et sera accepté, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Vous voyez ici qu'il y a deux jeûnes, l'un choisi, l'autre rejeté, et les fruits des deux sont manifestes par lesquels on peut savoir qui sont les véritables jeûneurs et qui ne le sont pas, selon ce que Christ a dit, « Tout arbre se connaît à son fruit ». Que tous prennent garde à ce qu'ils font et à ce qu'ils produisent, car ceux qui jeûnent pour crêler et disputer, et qui frappent du poing avec méchanceté, ne jeûnent pas pour le Seigneur, il n'écoutera pas leur voix selon l'Écriture. Ceux qui, au lieu de mettre les opprimés en liberté, de défaire les lourds fardeaux et de briser tout joug, amènent sous l'oppression, imposant de lourds fardeaux et fabriquent des jougs au lieu de les briser. Ceux-là ne sont pas le peuple que le Seigneur acceptera dans leur jeûne, ni dont il écoutera les prières. Parce qu'ils ne marchent pas dans la voie équitable du Seigneur, mais aiment à errer et n'ont pas retenu leurs pieds, Jérémie dit donc que le Seigneur ne les accepte pas, mais qu'il se souviendra de leur iniquité et visitera leurs péchés. Et le Seigneur commanda aux prophètes de ne pas prier pour le bien de ce peuple. Car Dieu dit, « Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas leurs cris, et quand ils offriront des holocaustes et une oblation, je ne les agréerai pas, mais je les consumerai par l'épée, par la famine et par la peste. » Jer 14, 10, 12. Ainsi, vous pouvez voir partout que le Seigneur ne regarde pas tout ce que l'homme peut faire ou peut-être fera, tant qu'il s'égare loin de Dieu et ne retient pas ses pieds de marcher dans la mauvaise voie. Ainsi en a-t-il été sous toutes les dispensations précédentes de l'Écriture, et donc, à plus forte raison, sous cette dernière et très glorieuse administration de l'Évangile de Christ Jésus, que vous professez, dans laquelle la précédente vient à être accomplie et achevée, ou perfectionnée, où Christ lui-même est le grand législateur, qui donne ses ordonnances et préceptes à tout son peuple, lui qui, selon la promesse du Père, leur donne l'Esprit et écrit sa loi dans le cœur de tous les enfants de la Nouvelle Alliance, Jer 31-33. Et s'ils n'écoutent pas et ne se laissent pas gagner, alors, dit Christ, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Mais il ne donne aucune commission aux chrétiens de persécuter, de mettre en prison, d'enlever des biens, d'abattre des maisons, de mettre les pieds au carcan, de les déraciner du monde jusqu'à la racine et à la branche, non, ni même de souhaiter qu'on leur fasse cela. Mais si quelqu'un le fait, il le reprouvera, comme il reprit les disciples lorsqu'il leur dit qu'ils ne savaient de quel esprit ils étaient, quand ils désirèrent que le feu descende du ciel, car ils n'étaient pas venus pour détruire, mais pour sauver, comme vous pouvez le lire, Luc 9, 54-56. Et vous pouvez voir ce que dit l'apôtre Paul, sage maître d'œuvre, il dit « L'un estime un jour au-dessus d'un autre, l'autre les estime tous semblables, mais entre eux, il dit, que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. » Ainsi, vous voyez qu'il n'y a ici aucune contrainte sur qui que ce soit, dans les choses qui concernent le culte de Dieu, mais comme Christ gouverne la conscience, persuade le cœur et amène l'homme à croire que cela est selon la volonté de Dieu, afin que cela soit fait dans la foi, sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu, car l'apôtre dit « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché » Romains 14:5-23. Ainsi, puisque l'Évangile est professé, que les commandements de Christ soient observés et que l'exemple des chrétiens primitifs soit suivi, eux qui furent bénis en leur temps et eurent le témoignage d'être agréés de Dieu, eux qui furent persécutés mais ne persécutèrent jamais personne, ni ne cherchèrent à troubler quelqu'un, sur un plan corporel ou extérieur, à cause de leur conscience, bien qu'ils reprissent sévèrement ceux qui se détournaient de la puissance de la vérité et devenaient ennemis de la croix de Christ, dont le Dieu était leur ventre, qui se glorie. Or l'apôtre rendit témoignage contre de tels hommes, ou contre tout autre qui pratiquait l'injustice, mais nous ne lisons pas qu'il ait jamais fait, ni même désiré qu'il en fût ainsi, que ceux qui ne servaient pas le Seigneur Jésus-Christ fussent mis en prison, au carcan ou soumis à quelque châtiment corporel. Mais il les laissait au juste jugement du Seigneur à sa venue, les ayant avertis, et demandant qu'on n'ait pas de communion avec comme avec des frères, mais selon le commandement de Christ, qu'ils soient comme des païens ou des publicains. Ainsi tous peuvent voir très clairement, s'ils lisent l'Écriture d'un œil simple, que ce n'est pas de Christ, ni selon l'exemple primitif de l'Église dans son meilleur état, de contraindre la conscience que ce soit faire quelque chose comme un devoir envers Dieu, alors qu'ils n'en ont pas eux-mêmes la persuasion, bien qu'ils reprissent très sévèrement et qu'ils portassent très zélé un témoignage contre tous ceux qui firent naufrage de la foi et d'une bonne conscience, et qui se détournèrent de la direction et de la conduite de la grâce de Dieu pourtant. C'est pourquoi je ne puis que désirer que tous ceux qui professent le christianisme suivent l'exemple de ceux qui furent les premiers et les plus sages bâtisseurs du christianisme, qui ont posé le fondement de sorte qu'on ne peut en poser un autre. Celui qui voudrait bâtir sur ce fondement déjà posé autre chose que ce qu'ils l'ont bâti, subira une perte au jour où ses œuvres seront éprouvées. Ainsi donc, si quelqu'un voit la verge du Seigneur et ses jugements dans ces chaux qui sont sur le peuple de cette île, que tout cela s'humilie sous la main puissante de Dieu et attend de sentir sa grande puissance pour abattre l'homme de péché et soumettre ce qui a opprimé l'âme, afin que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, l'opprimé soit mis en liberté et que tout joug soit brisé, de sorte que s'accomplisse ce qui a été dit par lui, Jean 8:36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors les gens viennent au jeûne que le Seigneur a choisi, et ce jeûne ne peut être accompagné de cruauté, il n'y a pas de coup donné du poing avec méchanceté, ni d'oppression exercée sur le juste, là où Christ est reconnu et suivi comme le Seigneur l'a établi, en témoin, en guide et en chef, pourquoi il est donné au peuple, comme vous pouvez le lire en Ésaïe 55:4. Mais lorsque ces mots sont produits, comme fruit de quelques jeûnes, par ceux qui ordonnent un jeûne ou prétendent en observer un, n'est-ce pas comme le jeûne de Jézabel, qu'elle fit proclamer par les anciens et les nobles de la ville, où le juste fut accusé, condamné et lapidé à mort sans raison, si ce n'est qu'il ne pouvait ni vivre ni vendre son héritage que le Seigneur lui avait donné. Ainsi nous désirons le bien de tous les hommes, et que chacun prenne garde à ses propres voies, comment il marche devant le Seigneur, et fasse aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fasse, et que tout soit libre quant aux choses qui appartiennent à Dieu, et ainsi laisser au jugement de celui qui connaît tous les cœurs, afin de recevoir de lui la récompense. Quant aux choses pour lesquelles l'homme est condamné, si quelqu'un fait tort ou dommage à un autre dans sa personne ou dans ses biens, nous disons, que celui-là soit puni selon la loi, faite pour le transgresseur, et que le jugement coule comme des eaux, et la justice comme un torrent puissant, Amos 5:24. C'est la voie, dont l'Écriture témoigne largement, par laquelle l'homme peut venir à être accepté, la colère de Dieu apaisée et ses jugements retirés, et ainsi le juste désir exaucé. De la part d'un ami de la paix et de la justice, qui cherche sincèrement le bien de tous les hommes, John Bunyan fait le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.